technicien est aux manettes.
C'est bon. Écoutez, bonjour à tous et à toutes. Et tout d'abord, on va procéder de la façon suivante. Vous allez vous présenter. Comme ça, vos intervenants seront acquis dans l'affaire. Et ce ne sont donc plus des ressources cachées, mais des ressources révélées. Et même si vous ne les révélez pas toutes, hein, évidemment, vous avez le droit. Et donc ensuite, je laisserai André animer la table ronde, puisqu'on n'est pas très nombreux. Tout d'abord, on commence par madame.
Donc bonjour, Bénédicte de Bouygues-la-Bataille. Donc je suis enseignante, porteur d'un projet, d'un lieu de vie pour les familles, un lieu intergénérationnel, un lieu où il y aurait des activités, la sophrologie, puisque je suis aussi sophrologue, des choses pour l'accompagnement scolaire, puisque je suis enseignante, un lieu peut-être aussi un peu salonté avec des bonnes choses, des lieux, maisons. Voilà.
Un mot sur.
Voilà, je suis épouse d'un grand philosophe, avec Stéphane Vincent.
Qui est spécialiste de René Girard et qui, par ailleurs, en tant qu'enseignant dans une institution poitevine, accompagne les mini-entreprises.
Donc... Voilà, qui est aujourd'hui justement à La Rochelle avec ses élèves concourir pour entreprendre pour apprendre.
Absolument. J'y suis allé l'an dernier à Niort, il y avait à peu près 60 mini-entreprises et un bouillonnement énorme. Uniquement la région Poitou-Charentes, 1000 jeunes qui vraiment tous étaient très dynamiques. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un philosophe qui s'intéresse à la mini-entreprise.
Voilà. Bonjour, Vincent Jay, anciennement musicien, pédagogue, didacticien et aujourd'hui porteur d'un projet que j'appelle le passeur de son, qui propose des relations interpersonnelles de redécouverte de nos propres capacités sensorielles avec le son. À partir de la mise en service du disque, mais avec un niveau d'intelligibilité tel qu'on n'a aucun effort à fournir pour aller vers les éléments, qui sont les éléments qui, par leur disponibilité, nous rendent disponibles à nous-mêmes. C'est ça le fondement du passeur de son, qui peut se décliner dans différentes situations d'hospitalisation, de loisirs éventuellement pour des particuliers, mais aussi de documentation, aider les bibliothèques, les médiathèques qui ont un fonds à le faire réellement vivre. Ils le font avec des tableaux et des livres à consultation directe, on le voit, on l'a, mais le disque nécessite des outils, des savoir-faire que quasiment personne n'a pour entendre réellement ce qu'il y a sur le disque et rien d'autre. Du coup, la technique se fait absente. Il n'y a plus que le lien entre le moment de l'enregistrement et ce qu'ils reçoivent. Ça crée à l'intérieur un grand chamboulement qui est constructeur et fondateur de beaucoup d'hypothèses de rencontres avec le monde.
Parfait. Jeune homme.
Damien. Voilà, donc Damien Gendron. Je suis étudiant en première année en lettres et sciences po. Et je suis également, j'ai le statut national étudiant entrepreneur qui existe depuis 4 ans, donc initié par le ministère de l'Éducation nationale pour accompagner les jeunes ayant des projets à finalité lucrative ou sociale. Alors mon projet, c'est un projet à finalité sociale qui s'appelle Localis et qui a pour objectif d'accroître le dynamisme économique dans les territoires ruraux, désindustrialisés, bref, dans les territoires où il y a assez peu de croissance et de vitalité à la fois économique, culturelle et sociale. Alors Localis sera une SCIC qui propose une carte au grand public, une carte qui donne accès à des avantages tarifaires ou en nature chez les commerçants, les artisans, bref, chez toutes les entreprises indépendantes et locales, les entreprises qui exercent leur activité au même endroit où leur siège social est implanté. Et l'argent qui est perçu par la vente de ces cartes-là sera redistribué d'une part aux entreprises qui sont partenaires de Localis, donc qui proposent des avantages, et d'autre part aux porteurs de projets sur les territoires. Alors l'objectif, c'est de créer un cercle vertueux qui facilite d'une part la création d'entreprises sur les territoires et qui d'autre part permet d'avoir plus de clientèle, donc finalement de lier mieux l'offre locale à la demande locale. Donc voilà, c'est l'objectif, renforcer. Voilà, tout à fait. Merci.
Bonjour, c'est Chasseport. Moi je viens plutôt en termes d'information au départ, j'ai une idée, je suis porteuse d'un projet, mais c'est encore que dans de l'idée, qui serait sur solliciter les agriculteurs d'un petit territoire pour pouvoir créer un magasin sous le volet de l'ESS et pouvoir mettre en place un circuit court. Voilà. Sinon, mon parcours, j'étais dans l'éducation spécialisée et j'ai repris des études, donc je suis diplômée depuis peu d'un Master 2 SHS. Ouais.
Juste une précision, pouvez-vous dire par qui vous êtes venue aujourd'hui, parce que maintenant c'est intéressant.
Ah oui, d'accord. Donc je suis venue par une copine de formation qui travaille dans une entreprise juste au nord de Châtellerault. Donc elle est en train de créer le centre de formation et aussi ils veulent du côté. En fait, il y a deux pôles. Il y a le pôle industrie. Elle crée le pôle centre de formation. Et donc ils veulent dynamiser, je ne sais pas trop exactement ce qu'elle fait, mais du coup elle a rencontré un monsieur et ils veulent aussi mettre en place l'entreprise nouvelle, voilà, tout plein de démarches innovantes.
Ils sont audités aujourd'hui pour être entreprise du futur.
Voilà, entreprise du futur, pas nouvelle. Oui.
Bonjour, Nathalie Moury, je suis étudiante en intelligence économique. Et actuellement en stage à l'Espace Planète France pour une réflexion sur les territoires et les économies locales.
Et vous êtes bretonne et vous avez un frère qui crée un projet.
Oui, donc j'avais sinon mes parents sont à Laval dans le golfe du Morbihan et mon frère est entrepreneur pour la valorisation des déchets organiques et la mise en relation des producteurs et des demandeurs.
Yvonne Rabenjamina, je suis biochimiste de formation, je viens de Madagascar et je suis passionnée par la cuisine, l'écotourisme et aussi les produits cosmétiques. Donc mon souhait en fait c'est d'intégrer une structure existante où je pourrais travailler. Je vous remercie.
Bonjour, Céline Lowe, donc je travaille à l'Espace Sondes France à Poitiers, donc qui est le centre de culture scientifique et technique. Je suis chargée de mission sur le développement territorial, sur la mise en place de projets de culture scientifique sur les Deux-Sèvres et sur la Vienne. Et j'assiste Jackie Daniel sur la mise en place des tables rondes du programme Créativité Territoire.
Voilà. Vous avez une présentation de la salle. Maintenant, messieurs et monsieur Boucher, à vous de jouer.
Oui, je pense que ça marche, oui. Eh bien, bonjour. Donc, vous êtes rendu compte que ce ne sont pas des participants passifs, ce sont des gens actifs. Évidemment, ce dont on a besoin, ce sont ces activités, et qui dit activité dit gens actifs, même s'ils sont peu, par rapport au passif, puisque la plus grande force au monde, c'est la force d'inertie, n'est-ce pas, c'est bien connu. Des raisons pour lesquelles je vous avais proposé de venir à cette foire de Poitiers, c'est que, pour moi, et pas seulement pour moi, heureusement, pour tout un tas de gens, vous faites effectivement partie des députés actifs. Voilà, on y reviendra, je vais laisser les autres intervenants se présenter, et je me présenterai moi-même après.
Bonjour, alors Florent Blanc, moi je suis intervenant culturel sous le statut d'auto-entrepreneur. On m'a demandé précédemment dans un cadre associatif de poursuivre mes activités, mes interventions en niveau scolaire où je proposais des programmes d'histoire de l'art et d'analyse d'œuvre. Et on m'a demandé suite à ça de faire aussi un volet de développement culturel en entreprise. Donc je me suis prêté au jeu qui avait une vocation un peu plus expérimentale, on va dire. Et voilà, que ce soit sur un volet ou sur l'autre, le succès, surtout les retours très positifs, m'incite à développer et à continuer cette activité-là.
Merci. Alain.
Oui, bonjour, je suis là de titre en fait. Je suis gérant d'une start-up qui s'appelle CARS, qui existe depuis 2008, que j'essaie de faire émerger. Et président d'une association qui s'appelle FIDARAC. Alors FIDARAC c'est quoi? C'est une association, c'est au carrefour, je dirais, des réseaux. L'idée étant, c'est réaliser nos rêves au niveau des territoires. Donc, en faisant quoi? En faisant émerger à la fois dans tout ce qui est créativité, tout ce qui est initiative, et de passer, je dirais, des réseaux numériques aux réseaux physiques. Donc d'où l'objet d'être ici. Donc quand je dis réseau numérique, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles générations, on est drivé par une communication immédiate qui ne va pas sur Google, qui ne va pas dans Facebook. Et on se rend compte qu'on sert à des intérêts qui sont au-delà du territoire, en l'occurrence des Américains. Donc l'idée, c'est de créer un réseau interactif où les gens peuvent déposer des idées, se mettre en relation avec des gens, et ensuite, charge au de pouvoir vivre au-delà. L'idée, c'est un peu, c'est réaliser ses rêves. On a tous un rêve de maîtriser ce qu'on appellerait son écosystème, et qu'il rayonne pour pouvoir montrer les choses positives. Donc, ça sera peut-être plus tard, mais donc, je pense qu'on a tous en nous des énergies positives. Et ensuite, il y a des énergies qui sont négatives, qui sont dès l'instant qu'on sort de la tête, on crée des produits ou des services, et on se rend compte qu'on est en pénurie par rapport aux ressources qu'on utilise. Et la plus grande richesse, justement, c'est de pouvoir restituer tout ce qu'on a envie de faire. Et de ce fait-là, c'est d'aller dans le sens du positivité. Donc ça a été dit à certains moments. Après, ça passera forcément par du collaboratif et du réseau. Mais encore faut-il savoir, c'est où on est, comment le dire, pour que quelqu'un qui est en face puisse trouver dans les mêmes mots. Hein, si je suis ici dans une ville, je suis effectivement sophrologue, j'habite peut-être à Poitiers, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des problèmes techniques pour pouvoir mettre en avant son produit. Donc voilà un petit peu, en un mot, après je suis ouvert à toutes les questions. Mon objectif étant, c'est de mettre en œuvre à la fois ce qu'on appellera les trois piliers du développement durable, c'est de d'abord faire de l'ESS, c'est-à-dire d'abord faire du sociétal, pour mesurer les impacts dans la société, c'est-à-dire le retour à l'emploi, l'insertion, l'handicap, tout ce qu'on peut imaginer, et de créer du sens dans l'écologie pour pouvoir mesurer ses impacts à la fois directs et indirects et essayer de faire des liens complètement en direct et en informel entre celui qui produit l'idée ou qui produit le produit et celui qui le consomme. Tout ce qui se passe en intermédiaire devront faire la preuve de leur valeur ajoutée. Donc voilà, et je passe à la main.
Oui, je rappelle quand même le thème donc de cette table ronde, créativité territoire, le point pour 100% d'activité pour chacun et chacune dans les territoires. Ce qui nous ramène évidemment aux actions, à l'une des actions de Laurent Canguillaume. Nous sommes ici pour écouter, pour nous informer et pour agir. Ne pas gémir, agir, c'est un des thèmes qui est exploité sur le stand des start-up que nous avons ouvert avec Alain. Et une des raisons pour laquelle, encore une fois, Laurent Guillaume est là, c'est que, il va le dire d'ailleurs, il n'est pas, enfin je ne pense pas que vous soyez sorti de l'ENA ou des choses comme ça, mais il est sorti de la société civile, comme on dit. Et il a déjà dit haut et fort que, à moins que c'est changé, mais qu'il se présentait pas aux législatives et qu'il allait retourner à la vie civile, que je traduis comme la vie réelle par rapport à la vie politique. Or, les politiques sont quand même tout à fait nécessaires, tout à fait importants quand ils jouent leur véritable rôle. Et donc, tout en vous présentant, mais beaucoup évidemment, on vous connaît, mais sous quel angle est-ce que pour vous, sous quel angle vous voyez l'activité dans les territoires et comment vous, à la fois en tant que personne physique et société civile et personne politique, vous avez agi, donc ça c'est un peu le passé, vous agissez, ça c'est le présent, et surtout vous espérez agir dans le futur en étant aidé de ces personnes qui sont là. Et personnellement, j'en prends l'engagement. C'est-à-dire que selon, bon, on va quand même réfléchir un peu, mais selon ce que vous direz, si vous nous indiquez telle piste, telle piste, telle piste, et que cela correspond à une dynamique véritable des territoires, je vous promets que on va non pas obéir, puisque la liberté est fondamentale, mais contribuer à cette dynamique. Voilà, nous avons beaucoup parlé, à vous.
La pollinisation.
D'abord, merci pour cette invitation. Moi, je vais vous présenter, donc Laurent Guillaume, j'ai 39 ans. J'ai commencé ma carrière professionnelle après des études universitaires, donc en banque comme attaché commercial. Après, j'ai travaillé en collectivité territoriale. Ensuite, j'ai été conseiller en formation professionnelle. Avant d'être élu à l'âge de 30 ans, j'ai commencé par être élu comme adjoint au maire de Dijon. J'étais chargé de la vie associative, de la démocratie locale et de la jeunesse. Ensuite, j'ai été vice-président d'agglomération aux finances de la plus grande Dijon. puis conseiller général, et enfin élu député donc en 2012. Mandat dans lequel j'ai été en particulier rapporteur sur l'asile, l'intégration et l'immigration à la commission des finances de l'Assemblée nationale. J'ai été rapporteur de la loi Hamon sur la consommation, sur la partie banque et assurante. Macron sur la partie simplification, puisque j'étais co-président du conseil de simplification pour les entreprises, c'est tout ce qui touchait, vous savez, aux mesures de simplification qui ont été mises en place. Et puis j'ai été sollicité dans deux conflits nationaux par les premiers ministres successifs. Le premier entre les poussins et les artisans en 2013, donc entre les auto-entrepreneurs et les artisans en 2013, pour sortir du conflit à travers des propositions qui avaient été adoptées justement à l'unanimité des acteurs. Après, on m'a appelé à nouveau sur un autre conflit en 2016, les taxis, les VTC et les plateformes, donc sur lequel j'ai proposé des solutions et une loi donc, a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et j'ai porté donc une loi, la loi d'expérimentation territoriale visant à résorber le chômage longue durée, qui est une idée qui s'appelle Territoire zéro chômage longue durée, avec le soutien de la Décarmonde, d'Emmaüs France, du Secours catholique, du Pacte civique, de Bleu Blanc Zèbre et de la Fédération des acteurs de la solidarité, ce qu'on appelle avant la FLARS, qui est présidée par Louis Gallois, qui rassemble les acteurs de l'insertion. Donc cette loi donne lieu maintenant à une expérimentation. Et j'ai annoncé l'année dernière que je ne me représenterai pas aux élections, parce que moi j'entends le mandat non pas comme une finalité en soi, mais comme un passage, parce que je considère que nous ne sommes que des passants dans les fonctions politiques, et que la politique ne se limite pas à être élu. On fait de la politique tous les jours, quand on est dans une association, dans un syndicat, dans une entreprise, parce qu'en fait on agit sur l'efficacité. Et pour moi la politique elle s'entend de cette façon. Elle ne s'entend pas que de la manière d'être élu. Et j'entends bien continuer à faire de la politique, mais dans la vie de la cité, c'est-à-dire à travers des engagements associatifs. L'association que j'ai créée il y a 5 mois, Territoire zéro chômage de longue durée, avec les associations dont je vous ai, que j'ai citées tout à l'heure, et dont je pourrai vous parler après, sur l'idée du projet, sur comment il fonctionne et sur ce qu'on veut faire. Au pacte civique aussi, puisque je suis engagé avec Jean-Baptiste Foucault pour co-animer l'Observatoire de la démocratie, donc chaque année, on va publier un rapport sur l'état de la démocratie sociale en France, de la démocratie participative et représentative. Alors, non pas écrit à 4 autour d'une table, mais avec des rencontres avec des acteurs de terrain. Et je me suis aussi engagé donc bénévolement également à l'association Entreprises et Progrès, qui est une association qui travaille sur le monde des entreprises, le monde du travail, des TPE, des PME, des start-up, des ETI, enfin, tous ceux qui font et qui font l'emploi dans nos territoires. Et enfin, je suis donc vice-président de la fondation Travail Autrement, là aussi bénévolement, donc qui est une fondation qui est spécialisée sur la question des nouvelles formes d'emploi. Dans ce que j'entends par nouvelles formes d'emploi, c'est à la fois les indépendants, donc leur diversité, hein, ils sont nombreux, il y en a 2,8 millions en France, et donc ça va des auto-entrepreneurs, mais ça passe par plein de statuts différents, le portage salarial, les coopératives d'activité, et puis bien d'autres formes encore qu'on pourrait développer. Sont nombreuses, donc c'est des sujets sur lesquels je travaille en particulier, donc c'est un fil de temps en fait, on réfléchit sur ces questions-là pour faire des propositions. Donc, voilà pour la présentation, donc, le bénévolat, l'engagement associatif, et puis je retournerai à la vie professionnelle à l'issue de mon mandat, mais voilà, je pense que les parcours ils sont faits pour justement s'engager de différentes manières et ne pas s'enfermer dans des logiques parfois partisanes qui peuvent exister, hein, mais qui ne sont pas là aussi une finalité en soi.
Qu'est-ce qui a fait que, justement, vous êtes engagé en... Je ne parle pas de la résolution des conflits, qui est important qu'on insère, mais dans cette expérience un peu folle de parier qu'il y aurait des territoires à zéro chômage longue durée. Il y a une dizaine de territoires, d'après ce que je sais, qui ont été sélectionnés à partir de combien, je ne sais plus combien, de territoires qui étaient candidats, cela commence le plus proche de Poitiers, je crois que c'est Mauléon, avec une association. Je sais que ce n'est pas un coup médiatique, évidemment, vous n'êtes pas un homme de coup médiatique, mais c'est quand même osé.
C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, celui qui a pensé l'idée au départ, c'est Patrick Valentin, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, et qui, en 1995, à Seiche-sur-Loire, s'est dit, bon, on peut, après tout, pourquoi on ne mobiliserait pas? En fait, il est entrepreneur, il travaille aussi beaucoup dans les ESAT, dans l'insertion, enfin, il a vraiment une carrière professionnelle, il fait de différentes choses. Et du monde associatif, il s'est dit, mais pourquoi on ne mobiliserait pas les coûts du chômage, en fait, pour créer des emplois? Donc il a essayé, il n'a pas réussi, parce qu'en fait, il n'a pas réussi à mobiliser les acteurs pour apporter des financements. Et après, il a continué son combat, et puis il a rencontré Télécar Monde. Il y a Télécar Monde, à l'époque, les responsables de Télécar Monde, ont dit, on est intéressé par ce projet, puisque nous-mêmes, on porte DAE, qui est une entreprise apprenante à Noisy-le-Grand, que j'ai visité il n'y a pas très longtemps, et qui s'adresse justement à des personnes en grande difficulté pour justement leur permettre d'avoir un travail, retrouver un statut social dans la société, et tout part du travail. Pour nous, le travail est essentiel et contribue justement au bien-être et à se réaliser aussi, même s'il n'est pas une fin là aussi en soi. Et donc, à partir de là, Télécar Monde a fait un travail avec Patrick Valentin. Ils ont réalisé une étude avec Denis Prost, qui lui aussi... il n'est pas très loin d'ici, donc comme quoi vous voyez, l'idée a émergé dans vos territoires en fait. Et cette étude macroéconomique a démontré, elle a été validée par un économiste, Jean Galeret ensuite, qui a beaucoup travaillé avec ATAC et avec d'autres organisations, a démontré que le coût du chômage pour l'État et les collectivités territoriales, de longue durée, hein, donc c'est plus d'un an, qu'on soit inscrit ou pas à Pôle emploi, c'est 17 000 euros par an et par personne. Pour l'État et les collectivités territoriales, hors dépenses de l'UNEDIC. Puisque pour les seniors, la durée d'indemnisation est plus longue, donc il y a des dépenses de l'UNEDIC, mais n'ont pas été prises en compte dans l'évaluation du coût du chômage longue durée. Du coup, vous avez les dépenses des centres communaux d'action sociale, des départements, bien sûr, à travers l'accompagnement des personnes, les RSA, dépenses liées à l'insertion. Vous avez plein de dépenses, même de santé, hein, puisque ça a été prouvé, une personne qui est au chômage de longue durée, plus elle est au chômage longtemps, plus sa situation de santé se dégrade. Donc il y a aussi des coûts en matière de santé publique. Donc 17 000 euros. Le coût d'un SMIC avec les allégements qui existent, c'est 20 000 euros par an. Donc vous avez d'un côté 17 000 euros minimisés, hein, puisqu'on n'a pas pris en compte les dépenses de l'UNEDIC, le coût du chômage, et le coût d'un SMIC 20 000 euros. Donc comment on relie les deux en fin de compte? Et Patrick Valentin est venu me voir à l'époque donc à l'Assemblée nationale, on m'a présenté l'idée. Moi, ça m'a bousculé. En fait, je me suis dit, mais bon, ça a l'air simple, pourquoi relier les deux comme ça, c'est, pourquoi on ne l'a pas fait avant, après tout, c'est si simple. Et puis, on a continué à échanger, on s'est rencontrés plusieurs fois, et puis on se disait, mais effectivement, bon, les chômeurs de longue durée ont des compétences, contrairement à l'image qui est donnée, parce qu'ils ont une expérience, même des jeunes, ils ont soit ils ont fait des études ou pas, enfin, peu importe, chacun a des compétences à apporter, quelles qu'elles soient. Des besoins dans les territoires, il y en a. C'est-à-dire que dans les territoires, on ne manque pas de travail, mais on manque d'emploi. Quand je dis on ne manque pas de travail, on manque d'emploi. C'est-à-dire que des activités à développer, comme on le voit à travers vos témoignages, il y en a. Par contre, on manque d'emploi dans la relation contractuelle avec les entreprises. Donc, deuxième constat, donc personne n'est inemployable pour nous. Et donc, on s'est dit, mais il faut qu'on arrive à mettre en place cette idée. Et donc là, à partir de là, on a rédigé une proposition de loi, et donc j'avais fait appel à Michel de Verville, qui a été DRH de Renault également, pour apporter son expertise à Louis Gallois et à bien d'autres. Et donc j'ai déposé cette proposition de loi à l'Assemblée nationale. Elle a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et à l'unanimité au Sénat. Donc il y a un consensus national sur cette idée. Et en même temps, en fait, des territoires ont commencé à se préparer. L'idée, c'était d'expérimenter dans 10 premiers territoires. Donc à Mauléon, à Pétriac, en Moselle, à Jouques, dans les Bouches-du-Rhône, à Villeurbanne, dans le quartier de Saint-Jean, à Lille, dans un des quartiers de la métropole, à Paris, 13e arrondissement, dans un quartier du 13e arrondissement, etc. etc. Et ces territoires se sont préparés en réunissant tous les acteurs des territoires, c'est-à-dire les chambres consulaires, chambres des métiers et de l'artisanat, chambres de commerce industrie, chambres d'agriculture, les acteurs de l'insertion, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les collectivités territoriales, les services de l'État, pour l'emploi, missions locales, les partenaires sociaux, et surtout les chômeurs de longue durée qui ont été associés dans tous ces territoires dès le départ, en leur disant, on en aurait rencontré un par un, et en leur disant, quel est votre parcours, qu'est-ce que vous pouvez apporter, vous êtes volontaire, les personnes doivent être volontaires, pour participer à cette expérience. Et donc là, petit à petit, les forces se sont fédérées, ils ont identifié collectivement dans les différents territoires des activités à développer, je pourrais y revenir plus tard pour vous donner des exemples, du réemploi, des recycleries, du maraîchage, etc., etc., des activités aussi culturelles. Et à partir de là, identifiant les besoins en activité, identifiant les compétences des chômeurs de longue durée, on relie les deux, et une fois que la loi a été votée, un fonds d'expérimentation a été mis en place, et ce fonds verse 17 000 euros par an et par personne embauchée dans l'entreprise. Condition, c'est un contrat à durée indéterminée, temps choisi, ça peut être un temps partiel ou un temps plein, c'est choisi, c'est pas subi. Et donc, les personnes sont rémunérées aussi au départ. Puis l'entreprise se développe, il y a un propre salaire comme dans les entreprises traditionnelles. Et dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. La condition, c'est que l'activité créée ne percute pas des activités existantes. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas créer des emplois d'un côté en mobilisant les coûts du chômage pour détruire de l'autre des emplois marchands qui existent. Autrement, ça n'aurait aucun intérêt. Donc voilà le système. Et donc aujourd'hui, dans les 10 territoires qui se développent, on a des entreprises qui ont déjà embauché 40 personnes en contrat à durée indéterminée dans certains territoires. Donc on monte en charge petit à petit. Et l'objectif, pour qu'on dit territoire zéro chômage longue durée, parce qu'on ne veut laisser personne au bord de la route. C'est-à-dire que l'objectif, c'est d'arriver à l'exhaustivité des chômeurs longue durée du territoire. Vous avez des territoires où il y a 150, 200 chômeurs longue durée, voire plus. Et donc notre objectif, c'est que dans les 5 ans, on prouve qu'on peut tendre vers l'exhaustivité et donc faire en sorte que tous les chômeurs longue durée aient une solution. Il n'y a aucune disposition dérogatoire au droit du travail. Ce n'est pas un statut juridique nouveau créé une entreprise, je ne sais quoi. Hein, on est resté dans des choses simples. Donc, statut dans l'économie sociale et solidaire, contrat à durée indéterminée, rien de dérogatoire au droit du travail. Et on dispose des fonds. Et donc les activités se développent. Et surtout, ce qui est important, et j'arrête là parce que je pourrais être très long, c'est qu'en fait, il y a une reconnaissance. C'est-à-dire que quand on travaille aujourd'hui, parfois on se pose la question de pourquoi on travaille. Quel est le sens de notre travail? Quelle est l'utilité de ce que je produis ou de ce que je crée ou du service que je vais apporter aux autres? Et là, en fait, il y a une reconnaissance des activités qui sont développées parce que toutes les activités ont une utilité sociale dans le territoire. Elles ont une utilité qui peut être environnementale, qui peut contribuer au bien-être dans le territoire. Et d'ailleurs, les indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer le travail qui est fait dans ces territoires reposent non pas seulement sur des indicateurs quantitatifs, le nombre de personnes embauchées, comment l'entreprise se développe, etc. Ce sont aussi des indicateurs qualitatifs basés sur les nouveaux indicateurs de richesse, qui ont été d'ailleurs définis dans une loi récente, pour se dire quel est le bien-être qui a été créé dans le territoire, qu'est-ce qu'on a pu apporter en matière de protection de l'environnement ou d'énergie renouvelable, qu'est-ce qu'on a pu apporter comme service nouveau, quelles sont les relations humaines qui ont pu se créer aussi dans le territoire. Donc c'est cet ensemble-là qui est pris en compte. Et donc maintenant, avec l'association FINDA, qui a été créé et que je préside. Notre objectif est de préparer une centaine de nouveaux territoires. Donc on avait une assemblée générale hier à Paris. La ville de Marseille, par exemple, vient d'adhérer à l'association, elle a délibéré en conseil municipal. La ville de Boulogne-sur-Mer vient de le faire aussi, etc., etc. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que d'ici 3 ans, on ait une centaine de territoires qui soient prêts et qu'une deuxième loi puisse être votée à l'Assemblée nationale et au Sénat pour créer un droit d'option dans le droit qui permette à tout territoire qui veut expérimenter l'idée, de pouvoir le faire sans limitation de nombre, à partir du moment où le projet sera réaliste, rigoureux bien sûr, qu'il aura mobilisé les acteurs locaux et qui reposera donc sur un consensus local.
Je vais compléter le discours parce que donc, depuis une dizaine d'années, je travaille dans le monde associatif et donc au carrefour de certaines choses, qui est l'insertion donc, qui a été dit. Donc je suis administrateur d'un certain nombre d'associations autour de tout ce qui est des PME, tout ce qui est CJD, tout ce qui est handicap et autres.
C'est Alain Châtenay qui parle. C'est pour l'enregistrement.
Merci. Tout simplement. Donc, le conseil qui est de dire, c'est-à-dire, au niveau, donc, on s'est débouché quand même sur la création d'un médiateur au niveau des relations avec les entreprises. Donc, avec Pierre Pelouzon, on a créé quand même l'Observatoire d'achat responsable qui a débouché sur une norme internationale au niveau des pratiques. Le conseil qui est de dire, à un moment donné, il y a plusieurs années, quand j'ai rencontré Jean-Baptiste Foucault, c'est de se dire, public-privé, même combat, parce qu'en face, on a des acteurs qui sont dans les territoires. Et donc, au bout d'un certain nombre d'années, on s'est rendu compte que par la mise en relation des gens par une médiation externe, ça a évité à une PME sur deux d'éviter de déposer le bilan, simplement en connectant les gens. Après, au niveau des gens qui sont à côté de l'emploi, donc suite à des problèmes de santé, parce qu'on parle, maintenant il faudrait beaucoup parler de la santé, ensuite il y a des initiatives où on se rend compte qu'un emploi direct crée 3 emplois directs. Regardez ce qui a été fait sur la ligne du LGV. Donc, mais après, il y a une notion de temporalité par derrière. Donc de plus en plus, ce qu'il faut, c'est regarder les relations qu'il y a entre les différents acteurs et mesurer la confiance entre les acteurs. Et que ce soit les acteurs eux-mêmes qui disent « Effectivement, je suis d'accord avec le produit que j'achète parce que j'ai en retour une valeur qui reste dans le territoire. » Donc là, je travaille avec le CJD au niveau national sur les labs Pareto, qui est de dire Les grands donneurs d'ordre doivent confier 20% de leurs achats dans des territoires. Mais après, c'est comment le mesurer? C'est en emploi direct. Et donc, de plus en plus, il faudra mettre au niveau des territoires des mesures au niveau des indicateurs de la création de valeur dans le territoire lui-même et non pas de la création de valeur dans l'entreprise. Parce que l'entreprise, dans l'esprit compétitif, fait que d'un côté, ça augmente la valeur intrinsèque de l'entreprise en termes de capital, mais de l'autre côté, ça crée un déficit sociétal. Et donc, de plus en plus, il faudra regarder le lien qui est entre à la fois la santé des gens dans le territoire, comment ils sont connectés pour avoir du développement personnel, et quelle valeur ça crée de richesse au niveau d'un territoire. Et j'ai vu donc que depuis une année, donc répondant à des appels d'offres publics, je me suis rendu compte qu'avec le nouveau découpage des régions, chaque région cherchait à créer son identité en termes d'attractivité. Et en fait, l'attractivité, très souvent, ce que mettent en avant les régions, c'est l'histoire. Et dans l'histoire, il y a des développements qui sont faits, et de moins en moins, je trouve qu'on met assez en avant tout phénomène qu'est l'agriculture, qui peut créer énormément d'emplois dans les territoires, parce que derrière, c'est la richesse de la terre. Et comme la terre, de l'autre côté, c'est la santé, donc de ce fait pas, ça devrait créer de l'activité dans un deuxième temps. Plus tôt que d'aller vers des sociétés, je dirais, intermédiaires, qui créent des liens négatifs, qui sont, sans les citer, la grande distribution, qui ont quand même inventé la temporalité du gaspillage au niveau national ou international, qui est la date de fabrication, la date limite de vente et la date limite de consommation. Donc forcément, ça standardise les produits, ça baisse la qualité et ça génère des problèmes au niveau de la santé. Voilà ce que je voulais dire, c'est-à-dire il faut faire du lien au niveau social, il faut que les territoires puissent s'identifier en termes de caractérisation des impacts directs et indirects, et ça ramènera des gens autour de l'emploi à travers les conciergeries qui commencent à mettre. On commence maintenant à pouvoir réserver, je dirais même, des litres de vin. Et on coproduit, on participe à l'investissement des agriculteurs. Et de l'autre côté aussi, ça devrait limiter le gaspillage pour qu'il reste réellement, pour créer des énergies secondaires, type le biogaz.
Voilà, pour reprendre l'image, effectivement, de l'agriculture et de ce qu'on appelle les terrains en friche. Il y a des friches urbaines, bien connus, qui sont souvent liés à des défaillances d'entreprises, et il y a des zones dans certaines villes qui sont délabrées, squattées, etc., qui sont des zones de conflit, de vide négatif, je dirais, parce qu'il y a le vide négatif et le vide positif. Une des choses qui m'a frappé, c'est que ces friches urbaines en particulier sont souvent confiées par les municipalités qui ne savent pas trop quoi en faire à des gens de la culture, c'est-à-dire qui disent peut-être par la culture, par l'art, par des artistes, on va faire revivre cela, et il se crée une espèce de mini-territoire local d'inventivité, etc. Ce qui me donne l'occasion de passer à M. Blain, qui lui est un homme de culture, un artiste, et qui peut nous dire quel est le rôle finalement qu'il voit dans l'activité ou la reprise d'activité des artistes pour que chacun et chacune puisse reprendre la main, comme on dit, sur son territoire à partir de sa personnalité et ce qui peut apporter ses ressources, quoi, finalement.
Alors, juste pour une petite correction, je ne suis pas artiste moi-même, je suis historien de l'art et j'interviens dans le domaine culturel à ce titre-là. Alors, parfois, en faisant intervenir des artistes. Mais l'exemple des friches que vous citez me permet, moi, d'insister sur un fait, c'est que c'est l'occasion pour les politiques publiques de redécouvrir que la culture, c'est une agilité du territoire, et que les artistes amènent ça, que la culture amène ça, alors que on a eu un petit peu la considération inverse, hein, de blocs de pensée, où il y aurait du néolibéralisme d'un côté et puis la culture de l'autre, parfaitement inadaptée à ce système-là. Parce que c'est une, de la même façon pour le territoire zéro chômage, je pense qu'il faut, il faut réfléchir les choses un petit peu en sens inverse. Vous savez, c'est Bourdieu qui avait théorisé ça, qui parlait d'économie inversée, de dire que bah, d'abord on crée de la richesse, que d'abord on crée des choses sur le territoire, des synergies, d'abord on, et ensuite on regarde ce que ça a apporté, et ensuite on regarde ce que, ce qu'on a créé en termes de richesse concrète. Et que c'est pas d'abord, eh ben on rafle la mise et on voit ce qu'on laisse derrière nous. C'est un peu le modèle du coup qui nous pousse à nous interroger sur les friches aujourd'hui, puisqu'on a pensé un modèle économique et on n'a pas pensé au territoire après sur la longue durée, sur le long terme. Donc de ce point de vue-là, la culture et l'économie réelle, elles se rencontrent, en plus, elles peuvent être complémentaires.
Quel est, sur le plan tout à fait pratique et quotidien, quel est l'apport que vous pensez avoir sur le territoire qui est le vôtre actuellement dans l'économie générale?
Alors, l'intitulé exact au départ, c'était de me poser la question de quels étaient les freins la création d'une activité dans le secteur culturel sur un territoire. Alors les freins, ils sont multiples, et puis c'est quand on a réussi un petit peu à les dépasser qu'on voit l'apport qu'on peut avoir sur un territoire. Et puis dans mon cas précis d'activité, sur un territoire qui fait sa transition un petit peu entre urbain et rural, et puis où il n'y a pas un pôle urbain.
Rappelez-nous
Poitiers et ses environs. Et puis j'interviens beaucoup sur un territoire rural qu'on a visité il y a peu, du Vouglésien, dans le cadre de mes missions de parcours éducatif. Et on constate que dans les politiques culturelles, la fracture territoriale est très importante et est de plus en plus forte. Aujourd'hui, il y a une vraie pensée qui doit émerger et qui est urgente, hein, de mon point de vue, de mettre de l'activité culturelle et dans les territoires ruraux et périurbains qui en sont complètement privés actuellement à cause de plusieurs facteurs, alors qui sont anciens. La politique culturelle, c'est vrai qu'elle a été pensée d'un point de vue étatique, hein, à partir de Malraux, poursuivi par Jack Lang. Je vous refais pas l'historique que vous avez probablement tous à l'esprit, mais qui a vécu une sorte de décentralisation ratée, de mon point de vue, et qui se confronte aujourd'hui à l'inégalité des territoires, parce que les municipalités qui se sont emparées de la politique culturelle, les municipalités sont très très inégales elles-mêmes, elles ne sont pas pourvues du tout de la même façon. Donc il y a celles qui créent des institutions, il y a celles qui créent des supports pour que la culture vive, et là aussi on peut voir que ça crée des problèmes par la suite, et puis il y a ceux qui n'en ont pas les moyens, qui n'en ont pas les ressources, ou les particularités géographiques et territoriales font que c'est impossible.
D'accord, et alors justement, Laurent Guillaume, dans les diverses structures où vous êtes partie prenante, comme on dit, que ce soit Entreprises et Progrès, Travailler Autrement, la Fondation, etc. Est-ce que cet aspect culturel, et d'abord, comment définiriez-vous la culture, parce que c'est un mot un peu valise, comme on dit, comment cet aspect culturel est pris en compte, et quelle est l'évolution que vous voyez, ou que vous souhaiteriez, de cette prise en compte?
Moi, je reviendrai d'abord à l'art, et je dirais peut-être comme Stéphane Hessel que l'art est une forme d'impertinence, hein, et qu'il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Et qu'en fait, on doit laisser des espaces de liberté, d'expression dans les territoires, sans oublier les médiations. Parce qu'en fait, vous savez, on est dans une société numérique, on parle beaucoup du digital, et en fait, on est rentré dans une forme de gouvernance par les nombres. En fait, on veut tout évaluer, quantifier, une forme de quantification avec les algorithmes, avec tout ce que vous connaissez. Et on demande donc en permanence des objectifs chiffrés à tout ce que l'on fait. Il faut prouver que c'est utile. Il faut prouver que ça a bénéficié à tant de personnes. Il faut dire que telle action
a produit tel effet. Et en fait, en faisant cela, on gouverne les effets, mais on ne gouverne plus les causes. Maintenant, on ne s'intéresse plus aux causes. Et en fait, en ne s'intéressant plus aux causes, on efface tout ce qui peut paraître peu utile, coûteux. Voilà. Et donc, les médiations sociales et culturelles, elles ont reculé dans les territoires. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui, par les relations humaines, créent du lien, amenés parfois justement à créer des espaces de liberté d'expression, de culture dans les territoires, bien tout cela a reculé. Et ce que je me rends compte, c'est que dans les territoires zéro chômage longue durée, donc d'expérimentation, ce qui se développe beaucoup, c'est des activités autour de l'environnement, autour de la culture, autour des relations en fait, humaines, des choses qui se recréent, mais parfois simples, qui n'existent plus, et qui se mettent en place dans ces entreprises à but d'emploi. Je prends l'exemple de Prémery, dans la Nièvre, qui est un territoire qui a été désindustrialisé, ils ont perdu des centaines d'emplois en 2002, avec des jardins ouvriers qui ont été abandonnés, et qui sont aujourd'hui réinvestis par l'entreprise à but d'emploi pour organiser du maraîchage, justement, dans un territoire rural, mais qui est un peu désurbanisé lié à cette désindustrialisation. Et en fait, donc on recrée des activités qui bénéficient au territoire, qui bénéficient aussi à développer des circuits courts, et qui, en même temps, recréent du lien entre les femmes et les hommes. Et puis, vous avez des territoires dans lesquels des lieux culturels se développent autour des entreprises à but d'emploi, ou des relations se créent entre les citoyens, entre ceux qui retrouvent aussi un emploi, qui parfois étaient isolés et restés chez eux. Tout ça, en fait, concourt à recréer des relations humaines. Et ce que je voudrais dire, et si vous avez le temps de vous intéresser à un livre de Jacques Ferrier, qui est un architecte, et qui a écrit Les possibilités d'une ville. Et en fait, lui, il parle de la ville sensuelle. Alors, la ville sensuelle, c'est celle qui permet justement d'élever l'essence. Et c'est vrai que là aussi, si on revient à ce que vous disiez sur cette gouvernance par les nombres, dans une ville, maintenant, tout doit être utile. Tout doit avoir une fonction. Et donc, quand on parle de friches, d'espaces qui ne sont pas forcément utilisés pour tels objectifs définis par des politiques publiques, on se dit qu'il faut en faire quelque chose. Mais pourquoi on ne laisserait pas aussi les citoyens justement s'approprier ces espaces? Pourquoi on ne laisse pas des artistes, ou des historiens de l'art, ou des personnes qui agissent sur l'environnement et qui justement occupent ces espaces en font non pas des choses utiles pour une politique publique, mais tout simplement des lieux de relations entre les femmes et les hommes, où on crée ensemble, où on fait des choses et où l'on réinvestit ces lieux différemment. J'étais à Nantes, par exemple, lundi soir, au Solidab, qui est un espace en fait, de l'économie sociale et solidaire, une friche industrielle en gros, qui a été réinvestie par des coopératives, par des acteurs, des recycleries, par des personnes qui créent leur propre entreprise, par. Et j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait, on voit un lieu qui revit, en fait, avec, alors, autour de l'économie, de l'environnement, des relations sociales, de la culture, en fin de compte, mais grâce à des initiatives, en fin de compte, privées, hein, et pas uniquement, alors, il y a forcément des financements publics, parce qu'il en faut pour démarrer, mais je pense que c'est aussi cette partie-là qui nous manque aujourd'hui, hein, dans cet imaginaire collectif, c'est-à-dire que, voilà, on parle des smart cities, alors, les villes intelligentes, mais pour moi, les villes intelligentes, elles n'ont rien s'il n'y a pas une intelligence de la ville. L'intelligence de la ville, elle repose d'abord sur justement ce que l'on construit ensemble. Parce que vous savez, on peut vivre ensemble les uns à côté des autres, sans jamais se parler, même avec le numérique. On peut être seul au pluriel et ensemble avec le numérique. Par contre, ce qui est important, c'est de faire ensemble. Et le faire ensemble, c'est justement de construire des projets. Ça peut être comme vous le faites à travers votre projet, justement, en étant entrepreneur étudiant, voilà, et ce que vous avez développé, ça peut être ce que vous faites à travers justement un lieu où on va parler du bien-être et prendre en compte ensemble, ça peut être à travers la musique, ça peut être. Et c'est tout ça qu'il faut justement réaliser, je crois.
Merci. Je propose aux gens de noter déjà les questions qu'ils vont poser tout à l'heure aux intervenants. Je voudrais revenir sur justement ces lieux, je dirais, d'invention ou de réinvention, non seulement de la relation entre les gens, qui peut être commerciale, qui peut être tout simplement humaine, pour bâtir des choses, pour faire des choses. Et vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, et la Nouvelle-Aquitaine, la plus grande région de France, a une association qui s'appelle Transtech, qui est à Mérignac, à côté de Bordeaux, qui existe depuis 30 ans, et qui est, à ma connaissance, la seule association vraiment crédible qui se développe autour de la mise en avant et de l'accompagnement des inventeurs indépendants. Et c'est une association tout à fait intéressante qui est donc du côté de Bordeaux, et le conseil régional a demandé à un inventeur que je connais de trouver dans le nord de la Nouvelle-Aquitaine un lieu pour faire quelque chose qui pourrait s'appeler le pôle invention-innovation, dans lequel les inventeurs indépendants pourraient trouver non seulement des informations, mais un accompagnement, voire mettre un Fab Lab, etc., etc. Et cet inventeur m'avait joint, en tant que je suis le président fondateur du club des Eco Business Agents, et donc il m'avait joint, on se connaissait déjà un peu, pour me dire, bon, est-ce que vous pourriez nous aider d'une manière ou d'une autre. Et il a écrit à plusieurs maires de certains villages, moins de 2000 habitants de la Nouvelle-Aquitaine, et il a choisi, après une réflexion évidemment, le village de La Motte, M-O-T-H-E, La Motte Saint-Héray, dont le maire, Alain Delage, a dit, ben écoutez, oui, ça nous intéresse de créer ça, d'autant plus, et c'est là où on rejoint la friche, d'autant plus que nous avons quasiment 600 mètres carrés en centre-ville, désaffectés maintenant, parce qu'il y avait un magasin, un coop, enfin, qui a fermé, et qu'il fallait faire quelque chose. Et alors c'est au tout début de cela. Et d'un seul coup, quand il m'a parlé de ça, cet inventeur, j'ai dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, hein, beaucoup de villages sont dans ce cas. Et comme il y a beaucoup de villages qui sont dans ce cas, ça vaut peut-être le coup de réfléchir à un modèle économique qui réunirait des inventeurs, des innovateurs et des initiatives. Hein. On parle beaucoup des syndicats d'initiatives, mais qui, bon, marchotent plutôt. Et le maire de La Motte Saint-Héray vient avec son responsable économique, M. Blanchet, le 26 à la foire de Poitiers, pour rencontrer non seulement, pour me rencontrer moi, mais pour rencontrer Didier Moreau, qui est le directeur de l'espace Mendès France, qu'il a eu au téléphone par mon intermédiaire, puisque nous sommes, nous, des tresseurs de liens, hein, comme je le disais tout à l'heure, des connecteurs, des collecteurs d'abord, et des connecteurs d'énergie positive, avec Alain Châtenay. Ça peut paraître anecdotique, mais il se trouve qu'il y a 8 jours, j'étais à une réunion organisée à l'ESCP à Paris, par Commedia, et où il y avait la personne qui s'occupe de l'innovation à l'UGAP. L'UGAP, c'est 100 milliards d'euros d'achat par an, d'achat public. Et le problème qui a été soulevé à ce moment-là, c'est que les 130 000 acheteurs publics hésitent à faire acheter par des collectivités locales des innovations. Parce que la première question qu'on pose à un fournisseur, c'est quelles sont vos références. Et que, évidemment, quelqu'un qui invente quelque chose, que ce soit un service ou un produit, n'a pas de référence, au moment-là, très peu. Et donc l'idée germe de peut-être expérimenter, de manière à ne pas prendre trop de risques quand même, sur des petits marchés, sur des, certaines choses. Alors, je parle d'achat public, je vais passer la parole à Alain, s'il le veut bien, Châtenay, qui est un grand connaisseur de tout ce qui est achat, et pour avoir son avis sur la question. Bon.
J'ai travaillé comme dans quelques PME avant de m'occuper du monde associatif. Hein. Quand je dirais quelques PME, c'est Veolia, Danone, Eiffage, un équipement automobile. Donc en fait, je sais tout ce qu'il faut faire et ne pas faire, parce qu'en fait, dès l'instant qu'on est un acheteur, c'est un peu idiot, on veut globaliser des volumes, on va avoir une remise. Et on met la pression sur les gens qui sont plus petits. C'est comme ça que, en fait, depuis 40 années, depuis le Taylorisme, on a créé le réseau, je prends l'automobile, des fabricants, qu'on crée des réseaux d'assembliers, en signant sans billet donc d'expertise, qu'on va dire sur des, comme des chaudronniers par exemple, et ensuite où est la main d'œuvre. La main d'œuvre est toujours locale dans les territoires. Et on s'est rendu compte que pour gagner des fric, qu'est-ce qu'on faisait? On disait je vais acheter moins cher. Au bout d'un moment, là, vous réduire le coût de la matière, qui ne fait qu'augmenter parce que la rareté fait que la matière coûte plus cher, donc on va chercher la main-d'œuvre à l'autre bout du monde. C'est comme ça qu'on a créé des catastrophes, à savoir une usine en Inde, 1200 morts. Et c'est à cause de qui? De grands distributeurs qui se sont mis en disant, ok, regardez, les petits chiens, je peux avoir 3 euros, 5 euros. Après, on a eu trois grandes révolutions dans les achats qui font que les choses vont bouger. À un moment donné, on a eu un nuage de cendres qui a complètement noyé l'Europe. Et on s'est rendu compte, tiens, d'un seul coup, c'est con, les PDG se sont retrouvés au niveau des ouvriers. On a réduit par deux la consommation des médicaments psychosomatiques. Donc c'était un premier élément. Deuxième élément, Fukushima. La globalisation, c'est la mondialisation. Pour moi, c'était la fin du zéro stock. Donc on s'est rendu compte à un moment donné, dès l'instant qu'il y a une petite maille, on appelle ça la supply chain, hop, tout s'arrête. 1200 personnes au chômage dans l'ordre de la France dans l'automobile. Troisième événement, le printemps arabe. Suite à Kyoto, c'est la première fois quand même que le peuple s'est invité dans les réunions internationales au niveau de son, il y a eu l'expression au niveau des gens. On s'est rendu compte que c'était pas bien de taper un, taper deux, parce qu'on se rendait compte que la main d'œuvre était loin et parlait moins cher, donc maintenant on recrée du lien. Si on revient maintenant à la réalité du terrain aujourd'hui, c'est, je reprends le terme, c'est connecté, connexion fertile et relocalisée, il faut créer des lieux de vie, les gens échangent et partagent. Pourquoi les choses se font ou se font pas? Très souvent, c'est l'économique. Et l'économique, il est lié à deux choses. Un, les clients, c'est facile à trouver, parce que quand on est motivé, on en parle bien, on trouve des gens, et on crée de la confiance. Mais ce qui fait que tout de suite, on est arrêté, c'est qu'est-ce que vous faites dans le passé, vos références, etc. Le truc, il faut aller voir le banquier qui ne vous prête pas d'argent. Et pourquoi les choses ne se font pas aujourd'hui? C'est à cause de deux choses. L'énergie qui coûtera de plus en plus cher à cause des ressources, parce qu'on a la dépendance énergétique qui ferait que ça crée la dette à la France, et deux, le foncier. Parce qu'il faut toujours un local. Qu'est-ce qu'ils font que les gens... Regardez l'évolution des squatteurs. Ils s'approprient un local, et en fait, ils créent un espace de vie, et quand vous regardez bien ce qui se passe, ils mettent de la couleur sur les murs. Donc ils donnent envie à d'autres de venir partager un endroit. Après, c'est pas très, très bien dans la loi. Quand on prend aussi les monnaies qui sont mises en place aussi au niveau de la France, on se rend compte que ça marche jusqu'au moment où on se dit, c'est quoi la contre-valeur? Si je crée un point à quelque chose, c'est égal à 1 euro, ça ne marche pas. Je vais prendre un autre exemple que j'aime bien citer. Dans les brocantes, il y a quelques années, on achetait des meubles. Qu'est-ce qu'on achetait? On achetait de l'histoire. Maintenant, vous êtes dans les mêmes brocantes. Qu'est-ce que vous achetez? Les meubles, vous les repeignez en blanc. En plus, vous trouvez des vêtements et vous achetez des vêtements pour les enfants. Donc, c'est tourné vers l'avenir, ça s'ouvre. Pourquoi? Parce qu'on monte, on passe de deux mondes, du monde du capitalisme à un monde de consomme-acteur. Et on achète un usage aux choses. Maintenant, on achète une voiture, on loue une voiture. Donc c'est une grosse chose. Dans les entreprises, on n'achète qu'un photocopieur, on le loue. Donc ce qui veut dire qu'il faut recréer du sens et du lien, c'est sur un dossier que je suis en train de faire avec le Cameroun en Afrique, c'est créer ce qu'on appelle des lieux de vie, où les gens ils peuvent échanger, partager, parler des choses, et qu'est-ce que font les gens quand ils se rencontrent? C'est « j'ai bobo là, j'ai la santé ». Et après, qu'est-ce que font les gens? C'est la créativité, c'est l'aspect des choses qui parlent, c'est un, l'artistique pour moi, et aussi l'académique. Parce que plus vous êtes libre de votre cerveau, je rappelle quand même 15% du cerveau, c'est la créativité, le reste, vous passez de votre temps à faire de la photocopie des événements qui sont passés. Et après, vous avez tout un tas de raisons. Je pratique le yoga, la sophrologie, aussi l'ayurveda, pour ceux qui connaissent un peu plus. Il vaut mieux partir du soleil et faire le chemin à l'envers, comme ça on a une histoire d'aller vers du mieux. Et quand vous prenez au niveau de l'être, quand même qui est, vous prenez le monde c'est 80%, la terre c'est 80% d'eau, votre corps c'est 80% d'eau. Donc si on augmente la population, on n'a que la terre pour pouvoir partager les choses. Et donc et l'eau c'est la santé et c'est l'agriculture, je reviens à autre chose que fait. Donc de plus en plus il va falloir apprendre à échanger, partager, collaborer pour construire des choses positives. Et toutes les initiatives locales, elles ont besoin d'être connues, montrées, reconnues pour pouvoir se développer et émerger.
Voilà, c'est justement donc fait effectivement ces P2I ou P3I, c'est-à-dire des pôles invention, innovation, initiative qui commencent à émerger, intéressent beaucoup le GAP. J'ai discuté personnellement avec ce monsieur, donc il s'appelle Sébastien, bon, et il m'a dit, mais moi, le GAP a intérêt est très intéressé par ces initiatives locales et donc il est prêt à soutenir ce dossier. Il y a un lien évident avec votre travail, me semble-t-il, avec tout ce que vous avez fait, avec ce que vous cherchez à faire émerger. C'est aussi un moyen, encore une fois, de connecter des énergies positives, énergies positives que l'on voit, que l'on voit même en politique. L'histoire de Macron, Monsieur le Président Macron, pardon, le montre bien. Un OVNI venu apparemment de nulle part, je ne sais pas si évidemment, mais enfin bon, il y a eu quand même un mouvement de fond qui l'a porté. Maintenant, évidemment, on en est à que va-t-il faire après les discours, après le coup d'État, comme disent certains, qui est un coup d'État gentil, qu'est-ce qui va en sortir véritablement? Alain avait encore quelque chose à dire.
Je ne vais parler que d'achat, parce que je ne suis pas forcément toujours d'accord avec les gars. Les achats d'État, c'est quand même 15% du PIB. La totalité de vos achats, donc des collectivités, etc. Après, ce qu'il faut voir, c'est que eux, c'est en fait une centrale de référencement qui met à disposition des moyens, je dirais, techniques et de respect de la réglementation qui s'appelle le Code des marchés publics, pour faire un raccourci. Après, il faut voir dans les référencements. Donc, j'ai un truc qui m'y est en tête avec la Poste, hein, qui est passé par la Luga pour acheter des vélos électriques. Donc, et de ce fait-là, on a vu le résultat, les vélos, c'est l'importation. Donc après, on va prendre un autre exemple aussi dernièrement, c'est la ville de Paris, au niveau des Vélib. Donc ils ont attribué le marché à une entreprise dans un territoire. Donc je crois beaucoup à une dynamique qui va venir des territoires versus toute la commande publique pour redynamiser l'emploi dans les territoires. Parce que quand on prend je me suis amusé un jour à regarder, je dis l'évolution du nombre de fonctionnaires versus le nombre de chômeurs. Et on se rend compte que la dette a augmenté exactement dans le même sens que l'augmentation des deux côtés. Donc si on veut recréer leur richesse, il faut réinternaliser donc ce que j'appellerais moi l'ancrage territorial, les circuits courts et le développement de l'économie sociale et solidaire pour mesurer l'empreinte locale de l'emploi direct et indirect. Hein, parce que si une association se crée, elle a un objet pour le bien commun, et de ce fait-là, dans l'objet, c'est l'intérêt général, elle a forcément à donner un objectif, je dirais, réel, qui sont soit de la création de valeur en termes d'attribution de produits achetés localement, ou en emploi, direct ou indirect. Hein, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le handicap. Hein, il faut savoir que dans l'handicap, il y a 2034 établissements qui regroupent les OA et les ESAT. Quand on prend un autre secteur qui est l'insertion par l'activité économique, c'est exactement ici 2000 établissements. Et quand on regarde la problématique des PME et des TPE, c'est exactement le problème de l'handicap. On part avec un handicap et une TPE, c'est comment je peux être vu, perçu, pour avoir une commande derrière. Il y a tout des tas de contraintes de procédure. Je rappelle quand même que la moitié des dépôts de bilan des TPE en France, c'est du fait des donneurs d'ordre, à cause des délais de traitement des factures, même s'il y a la loi ME qui raccourcit les délais de paiement. Donc, quand vous allez dans une grande surface à Carrefour, vous payez cash. Hein? Mais cette entreprise, que je dirais c'est Carrefour, c'est faire de trucs, elle va payer à 90 jours. Et plus on est dans l'emploi, il faut que la richesse soit dans le territoire, dans les villages. Et je trouve que l'approche qu'on va essayer d'entamer avec André, c'est de s'occuper des villes, je ne vais pas dire des villages, inférieurs à 2000 habitants. Je pense qu'il y a une logique derrière. Pourquoi si je dis ça? Parce que actuellement, il y a à peu près 2 millions d'entreprises déclarées qui sont entre 0 et 1 salarié. Simplement,
oui, pour les seuls administratifs. Oui. Et en particulier, les auto-entrepreneurs, ils vont dire avec Florent tout à l'heure, avez-vous des remarques sur ce qu'il vient de dire?
Non, les coûts en fait, que l'on peut éviter dans un territoire, si on prend l'exemple de l'incinération, donc notamment des ordures ménagères, c'est un coût, ça pollue. Alors,
partie est réutilisée pour fabriquer de l'énergie, notamment dans les réseaux de chauffage urbains, mais c'est pas important en termes de recettes engagées, mais il y a une pollution, il y a un coût pour la société. Par contre, le réemploi, réutiliser en fait les ressources qui ne sont plus utilisées d'une manière ou d'une autre, ça crée des emplois, déjà directs et indirects, des emplois locaux, et donc non délocalisables, c'est quand même un argument de poids. Et par contre, ça demande peut-être que sur des zones qui vont concerner 20-30 000 habitants, on soit capable de développer des recycleries, des ressourceries, et donc de pouvoir investir aussi dans ces outils pour mettre en place une économie locale autour de ces réemploi. Hein. Ça veut dire aussi changer, en fin de compte, sortir des idées préconçues, des idées simples, et puis peut-être rendre visible ce que l'on a rendu invisible. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un téléphone portable, on va utiliser du silicium pour fabriquer ça, c'est fabriqué en Chine chez une entreprise dont j'ai perdu le nom, mais qui se robotise beaucoup et qui traite mal ses salariés. Et on a rendu invisible beaucoup de choses, en fait, voilà. En matière d'énergie, c'est le cas aussi. Et on ne s'interroge plus, en fait, sur cette boîte noire, voilà, où on met toute la technologie dedans, on ne s'interroge plus de savoir comment ça fonctionne. Mais si on se réinterroge sur les fonctionnements, sur où vont les objets que l'on consomme, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc., etc., et bien on va trouver plein de choses à développer, en fin de compte. Et on va trouver plein d'emplois utiles à créer. Et on va revenir à des savoir-faire que parfois on a peut-être perdu, hein, parce que maintenant la mode, c'est, vous savez, c'est la fonction projet. On doit toujours être dans les projets nouveaux et effacer le passé. Le passé n'existe plus, adaptez-vous au présent, tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, ça ne fonctionne plus, on va vous apprendre d'autres méthodes. En fait, ça ne fonctionne pas comme ça, la vie. C'est-à-dire, on s'appuie forcément sur un passé. Il y a forcément des choses que l'on peut réutiliser, des savoir-faire qui peut-être sont moins utilisés aujourd'hui.
Oui, il y a un exemple qui est bien connu d'un jeune homme qui est là, qui s'appelle Damien, et je lui ai parlé de son village où il est, qui est Sainte-Ouen, c'est bien cela. Et Sainte-Ouen, c'est 800 habitants, 850 à peu près, c'est à côté de Niort. Et en discutant avec lui, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ton village? Il me dit, oh, il y avait, mais il est mort, un girouettier. Girouettier? Il dit, oui, toutes les maisons du village ont leur girouette qui a été fait par ce girouettier, mais il est mort. Et je lui dis, il n'y a aucun jeune qui reprend, alors, je ne sais pas s'il s'est renseigné depuis. Mais voilà quelque chose qui est en fait un métier d'art et qui pourrait très bien être repris par un jeune. Moi, je vois par exemple une girouette avec une puce électronique dedans qui prédit un peu la météo grâce au vent. Enfin, la girouette du futur, quoi, par exemple. Voilà. Alors, tout à l'heure, on en parlait, voilà. Il y en a un qui montre ce qu'est la girouette du futur. Vous avez touché du doigt nous parlons d'emploi, et donc de qu'est-ce que c'est quelqu'un qui est un employé, qui a, il a un statut. Alors soit il a un statut de salarié, soit il a un statut d'entrepreneur, quand Hervé Novelli a créé le statut d'auto-entrepreneur, pour des raisons, me semble-t-il, à la fois sociale, mais aussi pour bien augmenter les statistiques de création d'emplois en France, hein, ça a été salué de façon, je dirais, très générale, comme quelque chose qui permet enfin de libérer les gens pour les artisans ont râlé contre ça. Alors nous avons à côté de nous donc Florent Blain, qui est un auto-entrepreneur culturel. Et j'aimerais qu'il nous dise, on n'a pas préparé la chose, mais donc qu'il nous dise comment il est venu à choisir ce statut d'auto-entrepreneur, et pour faire réagir ensuite Laurent, Guillaume, puisque il fait partie de cette formation Travaillons autrement, dans laquelle on voit des entrepreneurs, je suppose, le portage salarial. Personnellement, j'ai entendu des gens dire oh non, non, surtout pas entrepreneur, fais du portage salarial parce que tu peux déduire des frais, nanana. Enfin bref, il y a donc de nouveaux emplois qui sont en train de se créer et qui peuvent à la fois faciliter la vie des gens, tout en étant quand même accepté par l'État qui veut faire payer des impôts pour la collectivité. C'est quand même son rôle de s'occuper de la collectivité. Voilà, Florent, est-ce que tu peux nous raconter est-ce que tu as toujours été auto-entrepreneur ou alors tu as passé diverses phases pour arriver à ça?
Non, c'est en fait comme j'étais sur un type de contrat à durée déterminée et qu'on m'a demandé de poursuivre certaines des prestations que j'assurais, que j'ai créé un statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir y poursuivre. Alors qui est toujours très pratique dans la mesure où je peux faire une activité diversifiée dans ces actions avec une souplesse voilà qu'on trouve absolument pas dans d'autres. Dans d'autres modèles, et puis surtout avec une prise de risque et des charges qui sont...
Mais comment tu t'es renseigné au moment où tu as dit « il faut quand même que j'ai un statut », vers quoi tu t'es dirigé?
Oui, il y a quelques options sur la table, et puis comme je commençais avec un volume d'activité assez faible, j'ai été automatiquement vers celui qui avait en fait les charges les moins élevées. Et il faut s'en servir d'un tremplin, en fait, d'une sorte de perte transitoire, pour, avec ce statut, engranger un maximum de contacts et d'expériences qui permettent ensuite de basculer sur autre chose. Alors, je suis d'accord sur le petit jeu politique de la création, évidemment, de ce statut. Ça a été calculé et pensé. Pour autant, je pense que si on a un plan, une ligne de route bien définie, ça peut être une vraie opportunité.
Quel est votre avis, mon cher Grand Guillaume, sur ces emplois nouveaux qui naissent qu'est-ce que ça signifie quoi pour vous?
Ben, d'abord, il y a un état de fait, c'est qu'on a un chômage important, endémique, depuis des décennies, et que beaucoup se disent que face à des situations de précarité, face à des difficultés d'accès à l'emploi, je peux peut-être créer mon propre emploi. Alors comment faire? En créant sa propre entreprise, seule au départ. Donc, ça va être une micro-entreprise, ça peut être donc le régime d'auto-entrepreneur. Ça peut être en société anonyme simplifiée unipersonnelle, ça peut être une URL, ça peut être une SARL, ça peut être donc, il y a différents modes en fait, hein, pour entreprendre. Mais c'est vrai que le régime d'auto-entrepreneur est très simple d'accès, en un compte, et en plus il a éliminé une rigidité qui existe dans certains statuts, c'est qu'on paye ses cotisations en fonction du chiffre d'affaires que l'on réalise. Hein. Il n'y a pas de décalage de trésorerie. Ça, c'est un élément.
Au fond, c'était pour lutter contre le travail au noir.
Alors, il y a une partie, effectivement, du travail au noir qui a été, entre guillemets, blanchi, c'est-à-dire qu'en fait, il est rentré dans l'économie officielle, hein. C'est vrai. Mais il y a aussi des personnes qui, même sont salariées, qui ne trouvent pas de reconnaissance dans leur entreprise. Ils disent, bon, dans mon entreprise, ça ne va même pas que c'était un site internet. Il faut 8 mois pour commander un porte-manteau, il faut, c'est ce qu'on m'a dit à des personnes récemment dans des échanges, et elles disent en fait je trouve du sens ailleurs. Et donc en France, il y a 500 000 personnes qui cumulent une activité de salarié avec une activité d'indépendant. Et en fait, on appelle ça des slasheurs, en fait, ce sont des pluriactifs en français, et qui donc ont plusieurs activités. C'est aussi une révolution dont on parle peu. Il y a 2,3 millions de personnes en France qui sont des pluriactifs, c'est-à-dire qu'ils cumulent différentes activités. Parmi ces 2,3 millions, il y a 500 000 pluriactifs salariés indépendants, sans compter maintenant les étudiants entrepreneurs, par exemple, qui sont de plus en plus nombreux à tester une idée, en fait, sans prendre particulièrement de risques. Ils disent, bon, je teste une idée, je vais essayer, on va voir, ça marche pas, j'en testerai une autre, voilà. Et après, vous avez l'émergence de ce qu'on appelle les tiers employeurs, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une entreprise avec son unité de lieu, d'action, de temps, ça c'est l'entreprise traditionnelle. Et puis, vous avez donc aujourd'hui une fracturation de cette unité de lieu, puisque vous avez de plus en plus de personnes qui sont en télétravail, qui vont passer une ou deux journées soit chez elles, soit dans ce qu'on appelle un tiers-lieu, un espace de coworking, peu importe, hein, pour diversifier l'activité, mais surtout pour être plus proche de son domicile et éviter les transports dans des grandes villes. On va se déplacer vers 20-30 km pour aller travailler, c'est compliqué, etc. Cette souplesse qui est apportée. Perte d'unité d'action, parce qu'en fait, on voit bien qu'avec les projets différents, les équipes différentes, les réseaux qui se constituent, on n'est plus forcément sur les mêmes projets, sur les mêmes temps. Donc tout ça, c'est nouveau en fait. Hein. Et donc vous avez de plus en plus de personnes qui disent bah, moi, je veux avoir une protection, en fait, malgré tout, de salariés. Je ne veux pas forcément être totalement indépendant, parce que je veux quand même avoir une couverture chômage. Je veux pouvoir avoir une meilleure couverture santé. Et donc, ces personnes vont passer par ce qu'on appelle les tiers-employeurs. Les tiers-employeurs, ça va être effectivement du portage salarial. C'est-à-dire la personne va être à la fois salariée, mais elle va développer sa propre activité. Donc, elle va être entrepreneur et salarié. Vous avez les coopératives d'activité. Là, je vais être membre d'une coopérative, je vais développer ma propre activité, tout en ayant une protection garantie par la coopérative. Vous avez les groupements d'employeurs aussi, donc qui sont plutôt sectoriels, qui se développent avec souvent des entreprises d'un même secteur d'activité qui se regroupent pour pouvoir partager en fait des salariés sur des temps donnés et des compétences. Voilà, et la plus ancienne relation de site, c'est en fin de compte l'intérim, hein, puisque l'intérim a été créé dans les années 60, avec cette relation triangulaire du travail, vous avez l'entreprise qui accueille la personne, et la personne en fait elle est employée donc, sur un temps déterminé ou maintenant en CDI, hein, puisqu'il y a des contrats à durée indéterminée maintenant en intérim, de près de 5 000 aujourd'hui. Et donc, voilà, on va être dans une relation triangulaire de travail. Donc tout cela bouge beaucoup, en fait. Et en fait, on voit qu'on a une palette de plus en plus large de possibilités. En fait, le champ des possibles s'étend. Et on sait très bien qu'on ne va plus faire le même métier toute sa vie. En tout cas, on ne va plus travailler dans la même entreprise toute sa vie. C'est ce temps-là.
Et une des solutions au chômage, justement, est le groupement des employeurs. Je discutais hier avec France Joubert, qui, comme son prénom ne le dit pas, est un homme, hein, France Joubert, qui est du CRSGVE, c'est-à-dire le Centre de ressources pour les groupements d'employeurs, et qui me dit que dans certains territoires, ça marche bien et ils sont les premiers pourvoyeurs d'emploi. Qu'est-ce que
vous avez aussi les entreprises à temps partagé?
L'entreprise à temps partagé, effectivement, c'est la même chose
ou c'est différent? C'est encore autre chose. Donc là, souvent, ce sont par exemple des associations, non, souvent, hein, mais il n'y a pas que des associations, il y a aussi des sociétés, des cadres, par exemple, qui vont se réunir, qui vont dire voilà, on a des difficultés à trouver un emploi, c'est pas facile dans votre secteur, difficulté de. Donc on se regroupe, et en fait, on va aller chercher de l'activité, voilà, et se regrouper pour pouvoir se la répartir, et ainsi, là aussi, essayer d'inventer un modèle différent.
D'accord. Il est 11h30 ou bientôt, donc je voudrais passer à des questions, peut-être. Donc, qui a des questions à poser? Jacques de Nielsenev, donc voilà les questions que vous posez sur ce thème de l'emploi et de l'emploi à 100%, dans 100% d'activité sur un territoire donné. Entrez, hein, si vous voulez. Y a-t-il des questions? Je te passe la parole, Jacqueline.
Oui, bon, sinon, ça passera très bien comme ça. Sinon, voilà.
Vincent, qui a une question à poser.
Oui, une question sur les territoires. Donc, la problématique de la compréhension de ce qu'est ce territoire et ses énergies. Si quelqu'un extérieur à un territoire qui a une entreprise implantée en dehors de ce territoire visé, quelle est sa légitimité économique à participer à cet effort?
En fait, pour éviter de percuter les activités existantes, en fait, il faut que l'entreprise qui va se développe dans le territoire d'expérimentation. Par contre, ça va être un peu plus. Par contre,
euh,
Par contre, une entreprise existante dans le département peut développer une activité dans le territoire d'expérimentation concerné, en faisant une activité spécifique, un compartiment d'entreprise dans le territoire d'expérimentation. Par exemple, dans certains territoires d'expérimentation, vous avez des entreprises d'insertion départementale qui vont faire partie de ce qu'on appelle les EBE, c'est-à-dire les entreprises à but d'emploi du territoire d'expérimentation, et qui vont développer une partie de leur activité dans le territoire d'expérimentation. Donc c'est possible. Et l'objectif d'ailleurs, c'est qu'il y ait plusieurs entreprises dites sociales qui se développent dans ces territoires d'expérimentation, parce que c'est très difficile qu'il y ait une seule entreprise qui embauche les 150 chômeurs de longue durée du territoire, ne serait-ce que par rapport au collectif de travail. Hein, parce qu'en fait, comme je l'ai dit, c'est important aussi, c'est non pas que la qualité du travail, mais c'est la qualité au travail. Et pour soigner le travail, il faut prendre en compte cette qualité au travail. Et donc, si on est sur des petites structures qui intègrent bien les personnes, on peut faire de belles choses. J'étais à Villeurbanne il n'y a pas très longtemps, donc dans le quartier de Saint-Jean. Donc, il y a une entreprise à but d'emploi qui a été créée. La personne qui anime cette entreprise, en fait, a travaillé pendant 20 ans chez Accenture, donc le conseiller stratégie et organisation. Elle a été mise à disposition par Accenture en cadre d'un mécénat de compétences. Donc, elle anime l'entreprise. Donc, c'est intéressant, parce qu'on a des compétences quand même qui viennent directement du privé. Hein. Et donc, ils sont en train de développer, pour exemple, des ateliers de couture, parce qu'en fait, dans ce quartier de Saint-Jean, qui est un quartier populaire, il est enclavé géographiquement par les routes nationales, par l'eau, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, il n'y avait plus d'atelier de couture, ne serait-ce que pour la couture, pour en service payant, bien sûr. Donc, c'est d'ailleurs souvent des activités au noir qui ont été blanchies à travers cette entreprise. Il va y avoir des activités de pressing qui sont développées pour les entreprises. Donc, là aussi, il n'y a pas de pressing, en fait, sur place. Il y a des cours de soutien scolaire qui sont développés également. Il n'y avait plus de cours de soutien scolaire. Donc, il y a une personne qui a fait une thèse, qui est ingénieure, une femme, qui recherche un emploi depuis 3 ans. Elle n'arrivait pas à trouver d'emploi quand on passe un emploi. Pourtant, ben, ça m'a donné, oui, c'est mes difficultés d'accès à l'emploi. Elle organise des cours de soutien scolaire avec l'entreprise à but d'emploi. Et ils vont organiser aussi des moyens de transport alternatifs. Comme c'est un quartier enclavé, il y a des bus, etc. C'est très difficile de se rendre d'un point à un autre, de pouvoir aller dans les quartiers limitrophes. Donc ils vont organiser aussi des moyens de transport un peu alternatifs avec des tricycles. Je ne sais pas si ils sont en train de fabriquer tout ça, je n'ai pas encore vu le résultat. Donc voilà des exemples dans ce territoire. Après, je pourrais vous citer plein d'autres exemples différents, parce que chaque territoire a des activités différentes, puis les besoins ne sont pas les mêmes.
Est-ce qu'on peut faire un premier bilan? Je sais bien que c'est tôt. De cette opération.
Alors, au bout de. Parce que là, ça fait. Donc, les territoires ont été choisis, les 10 territoires en novembre. Hein, donc, il y avait 42 territoires candidats, 10 territoires retenus. Dans ces 10 territoires, on a des territoires qui commencent tout juste. Parce qu'en fait, il a fallu chercher des fonds propres, hein, comme pour toute activité. Vous connaissez tout ça, il faut aller chercher des fonds propres. Donc, ça n'a été pas facile, aller voir les banques, la caisse des dépôts, etc. Bon, donc, ça a été fait. Donc, il y a des territoires où ils viennent juste d'embaucher les premiers. Première personne, donc il y en a une qui vient d'embaucher les 3 premiers salariés, hein, et vous en avez d'autres qui ont déjà quasiment dépassé les 40 salariés, hein, en 4 mois. Seulement, ils avancent doucement mais sûrement, parce que c'est pareil, si on intègre 100 personnes d'un coup, hein, il faut quand même faire monter en même temps les recrutements, les activités, et arriver à faire en sorte que ce ne soit pas des emplois justement où les personnes n'ont pas d'activité, mais que ce soit des emplois utiles. Et où chacun puisse être reconnu dans son travail. Vous avez aussi des territoires dans lesquels ils développent, par exemple, un camping, il n'y en avait pas, il y a du tourisme, donc ESS, l'économie sociale et solidaire, hein, ou avec une activité qui va être développée. Vous avez des territoires où ils développent des activités complémentaires à l'artisanat, parce que les artisans disent, nous, on n'arrive pas à faire ça, parce qu'en fait, on a des demandes, mais bon, le carnet est rempli, on ne peut pas faire cette activité, c'est peu solvable en plus, donc ce ne serait pas rentable pour nous. Et donc, en fait, se mettre en place des complémentarités avec l'artisanat pour développer des activités. Après une riche dans la Nièvre, c'est un territoire, un TEPOS à énergie positive. Il y a des chaufferies bois dans les communes. Donc, ils vont redévelopper une filière bois avec la foige. C'est, en fait, vous savez, des bois, et ils ne sont pas forcément entretenus par les personnes, et, parce que les personnes vieillissent. Et donc là, les salariés de l'EBE vont aller chez ces personnes, entretenir le bois, prendre le bois pour aller alimenter ensuite ces chaufferies bois dans ce territoire à énergie positive. Donc oui, je prends des exemples, il y en a plein.
D'accord. Et alors, ce sont les résultats, je dirais, un petit peu quantitatifs, mais qu'est-ce que vous avez perçu comme changement humain, on pourrait dire?
Énorme. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai vu des personnes qui, pour certaines, étaient au chômage depuis 6 ans. Parfois liés à des accidents de la vie, maladies par exemple, des questions d'invalidité, des problématiques de santé, hein, et qui ont retrouvé un emploi, un contrat à durée déterminée, ont retrouvé une confiance aussi en elles-mêmes, parce qu'elles sont acteurs du projet. Ce qui est important de dire, c'est pas passif, hein, c'est-à-dire que les gens de leur durée, embauchés dans l'entreprise, sont acteurs du projet dès le départ. C'est pas de leur dire, vous venez, on vous met dans une case, c'est pas un dispositif supplémentaire, hein, c'est pas un contrat nouveau, etc. Bon, c'est vraiment un projet commun. Et donc, une prise de confiance en soi. Et moi, j'ai vu des personnes, par exemple, que j'avais rencontrées il y a 3 ans, qui étaient très timides, qui n'osaient pas prendre la parole en public. Et récemment, je les ai vus prendre la parole devant 400 personnes, dans des grandes salles, expliquer le projet, expliquer les tenants et les aboutissants, dire ce qu'elles font. J'étais à la Fondation de France, invité par le président, pour présenter le projet il y a une semaine. Vous aviez 2 personnes. Donc embauchés dans une entreprise à but d'emploi, qui ont pris la parole en expliquant devant l'ensemble des partenaires de la Fondation de France ce qu'elles faisaient, leur projet, leur activité. Mais parce que les chômeurs de longue durée, ce n'est pas que des personnes qui n'ont pas forcément eu accès à la qualification, etc. Vous avez des personnes, une des personnes qui est venue à la Fondation de France, elle était directrice du service des bourses à Sciences Po Paris. Elle a suivi son mari en Lorraine via une mutation professionnelle. Elle n'a pas réussi à retrouver un emploi dans le territoire, parce que c'est un territoire où il n'y avait pas beaucoup d'emplois. Donc elle a accepté justement au contraire cet emploi. Elle est heureuse, elle est fière de ce qu'elle fait, même si elle est rémunérée aussi au départ. Elle a retrouvé aussi cette confiance en elle, elle a rompu avec l'isolement qui fait que vous voyez votre mari, votre compagnon, peu importe, partir au travail et vous restez seul à la maison. Ça crée aussi des ambiances parfois un peu particulières dans les groupes, hein, parce qu'il faut s'imaginer, c'est lourd, c'est difficile. Donc c'est un ensemble, c'est à la fois sa situation de travail, bien sûr, qui s'améliore, mais aussi sa situation personnelle, hein, et plein de choses autour, et des contacts qui se créent. Exemple, dans un des territoires, les chômeurs de longue durée, avant que le BE soit lancé, ont créé une association commune, en fait. Ils ont créé des jardins partagés pour se retrouver, en fait, créer du lien, un lien social, et justement aussi se redonner confiance. Et il y a des personnes aussi qui ont trouvé un autre emploi déjà, les premières qui ont été embauchées ailleurs, en fait, parce que c'est une sécurité aussi d'apporter. Quand vous n'avez plus accès à rien et que vous avez un CDI, vous retrouvez aussi une sécurité, vous retrouvez quelque part quelque chose qui vous permet aussi d'aller de l'avant. Et donc des personnes vont retrouver aussi d'autres emplois. Ça peut être un passage, ça peut être aussi une fin en soi, parce qu'il y a des personnes qui sont proches de la retraite mais qui n'arrivent plus à retrouver d'emploi. Enfin, peu importe, en fait, il n'y a pas de difficulté. D'ailleurs, il n'y a qu'une chose qui est dérogatoire au droit du travail qu'on a inscrit dans la loi, en fait. C'est le fait qu'il y ait une passerelle, c'est-à-dire que la personne, si elle retrouve un autre emploi, elle a la possibilité de revenir dans le BE. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut prendre le risque. Parce qu'en fait, on lui assure qu'elle peut revenir dans l'entreprise au départ dans le BE.
Très bien. Et les grands, on va revenir aux questions, mais les grands organismes comme. Parce que vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, hein. Donc, j'ai participé à une réunion à Paris entre la Caisse des dépôts et la Banque de France. Et la Banque de France a l'air de se mobiliser autour de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que ces grands organismes-là sont partie prenante dans ces projets ou alors sont encore un peu timides?
La Caisse des dépôts, oui, parce qu'en fait, elle a apporté des fonds propres justement à ces entreprises en complémentarité de banques privées et commerciales. La Banque de France, non, pas encore. Après, nous, la difficulté que l'on rencontre, c'est que vous avez des fondations qui vont dire, voilà, nous, on veut bien aider un territoire concrètement sur une action particulière, évaluable, etc. Par contre, dès qu'on parle de fonctionnement, c'est-à-dire, en fait, le fait de dire, voilà, on a aussi une ingénierie à faire, on doit accompagner les territoires, on doit aller... Bon, moi, je fais bénévolement, il y a 4 salariés d'association. Mais bon, voilà, on se déplace, ça va être à Perpignan, ça va être à Marseille, ça va être en Alsace, ça va être... bon. Et donc tout ça, ça prend du temps, ça mobilise des ressources, il faut bien qu'il y ait un accompagnement à un moment donné. Donc là, on a plus de difficultés à avoir accès à des financements pour pouvoir justement faire fonctionner cette structure d'accompagnement des territoires. Mais globalement, on arrive à nouer des partenariats et on arrive à aller chercher aussi des institutions, que ce soit publiques, que ce soit privées, que ce soit...
Merci, Jackie.
Et on prend la parole dans la salle. Qui veut intervenir?
Damien.
Merci, très bien. Alors j'aurais deux questions. La première, c'est à Florent, c'est pas plus une remarque, mais à Florent Blin. Voilà. Alors je suis, j'étais avant d'arriver en licence d'être à Sciences Po à Poitiers, étudiant, bachelier d'une filière littéraire en spécialité histoire des arts, et je suis à Niort, donc au lycée Jean Massé, et je viens d'une commune rurale, plus dans le nord des Deux-Sèvres, et il se trouve que, enfin, mon avenir professionnel, j'aurais très bien pu le tracer dans le milieu de l'histoire des arts, de la culture, et une projection dans les territoires, c'est-à-dire quelque chose qui a un lien avec la créativité artistique dans les territoires, puisque c'est les territoires qui me tiennent vraiment à cœur. Sauf que malheureusement, comme il n'y a aucun dynamisme culturel au sein des territoires, j'ai abandonné totalement cette idée au profit de quelque chose de différent, plus tourné vers l'Europe, mais j'ai abandonné en tout cas la culture parce que tout simplement j'ai étudié l'histoire des arts pendant 3 ans, mais le seul musée que j'allais voir en tant que fils d'ouvrier, c'était le musée de Niort, le musée d'Agessy, et vraiment les œuvres que j'étudiais, j'adorais ça, malheureusement j'avais aucun contact concret avec la culture et tout cela. Et donc justement, comment est-ce que vous pensez à travers votre activité, et puis aussi à travers la fibre associative culturelle qui peut être présente dans les territoires, et notamment dans les territoires ruraux, comment faire en sorte que les jeunes puissent trouver un avenir dans des choses culturelles, alors que bien souvent il y a peu de choses qui nous sont proposées, culturellement parlant.
Alors il y a peu de choses, qui sont proposées, et puis là bon je reprends le credo d'André, agir et pas subir, ou ne pas gémir, je sais plus. Voilà. C'est le constat il est là, mais c'est aussi s'il y a rien, c'est aussi qu'il y a tout à faire. Alors le défaut, c'est que la formation en histoire de l'art, celle que tu as commencé à suivre et que tu aurais pu poursuivre, etc., c'est qu'elle ne forme pas du tout à ça. Elle ne forme pas du tout à connaître son territoire, faire de la prospective, réunir les acteurs, monter les projets, trouver les financements. Ça, à la limite, je pense qu'il vaut mieux que tu continues ton, ton cursus sciences politiques que ton cursus en histoire de l'art pour apprendre à faire ça. Après, il y a le côté, si je suis vraiment... c'est vraiment l'histoire de l'art te passionne et le rapport au territoire ou à la création artistique, hein, forcément l'histoire de l'art, c'est la synergie des acteurs et puis c'est peut-être aussi l'engagement politique parce que dans les territoires tout dépend de l'élu quoi, tout dépend de l'élu et du rapport que t'as avec eux. Alors moi, pour répondre à un certain nombre de sollicitations, de parcours et de choses comme ça, il a fallu que je m'associe parce que tout seul, je pouvais pas répondre aux appels à projets. Ils m'ont demandé plusieurs piliers, plusieurs fonctions, plusieurs choses que je pouvais pas assurer. Donc ça a été de trouver des compagnies de théâtre, des compagnies de danse, etc., pour des photographes ou pour pouvoir répondre concrètement aux appels à projets qui étaient formulés par les instances publiques et puis aller de l'avant comme ça. Mais c'est un long travail, et puis la connaissance du territoire est presque plus importante que les connaissances d'histoire de l'art pour édifier le projet.
D'autres questions?
Ma question et mon souhait seront simples. C'est-à-dire que, moi, j'ai besoin de travailler pour être utile à la société, pour participer à l'économie. Alors, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pourrez me proposer, s'il vous plaît.
Qui peut répondre? Je pense pas qu'il y ait de solution individuelle. Le problème, c'est de trouver le bon réseau qui permet de faire le lien entre son envie de faire quelque chose et ensuite l'activité économique ou non économique. Bon, après, on a tous, on part quand même soit d'un CV, soit d'un background technique qui correspond à des aspirations. C'est de se mettre en relation où on est avec les bons réseaux. Après, chacun peut essayer. Je pense que c'est plus dans l'environnement, si j'ai de mémoire.
À tout, que ce soit dans l'environnement, la cuisine, les produits cosmétiques, mais tout toutes suggestions, les propositions seront vraiment les bienvenues.
Et on, là, ça pose vraiment un point qui est très concret, parce que dans le discours qu'on entend souvent, c'est qu'il y a le territoire. Est-ce que le territoire, c'est un territoire géographique qui correspond à quelque chose? Est-ce que c'est un territoire économique ou est-ce que c'est un territoire non économique qui peut être une association, qui peut être une famille, je veux dire. Après, il y a une aspiration, des choses qu'on sait mieux faire que d'autres. Donc, je pense qu'il y a des gens qui savent mieux faire la cuisine que d'autres. Et ils vont peut-être créer des endroits de rencontre pour mettre en avant. Parce que je soutiens une association africaine, par exemple, pour la monoparentalité des femmes africaines. Et en fait, c'est fait à travers la cuisine. Parce que chacun a envie de montrer quelque chose. Mais je pense pas qu'il y ait de recettes miracles ou de bons trucs, parce que sinon on se retrouve tous sur un Google et en disant je suis et donc on doit me trouver. Donc il y a une démarche volontaire, c'est d'essayer de voir quel est le réseau, parce que sinon ce sont que des réseaux officiels hein, qui sont je suis chômeur, c'est Pôle emploi, je suis en travail, c'est mon entreprise, je suis dans une association, c'est des contacts. Mais je crois beaucoup à moi la richesse, je dirais, de l'homme, c'est de rencontrer des personnes pour donner envie, parce que le fait d'en parler avec passion, ça crée des synergies. Et on voit dans certaines villes, certains maires qui sont porteurs d'un projet, donc ils arrivent à entraîner, disons, la population locale, mais aussi de trouver des moyens de faire financer. Parce que la rareté, c'est une grande richesse, ce que je veux dire. Et la culture en fait partie. Et à des moments donnés, il faut être là au bon moment. On est là dans une foire, en fait. On pourrait se dire, ok, c'est les manèges, c'est là, etc. On vient manger du saucisson puis boire un coup. Mais en fait, c'est un lieu de richesse de rencontre des gens. Hein, j'ai rencontré hier, comment tu t'appelles, Damien. Tu as une richesse en toi. Et le fait d'en parler, on s'est rencontré avec des gens, des lieux comme moi qui sont une expertise. Demain, tu feras autrement. Madame, je ne sais pas, je ne vous ai pas rencontré, mais peut-être que le fait d'être ici, déjà, il y a une volonté d'aller vers les autres. Parce que l'isolement personnel fait que ça détruit une richesse qu'on a à l'intérieur. Quand je parle d'énergie positive, c'est le fait d'en parler, de trouver, de montrer ses passions. Et quand vous prenez, vous avez deux CV aujourd'hui qui sont traités par des ordinateurs, qu'est-ce que regardent les gens? C'est la différence. Et de se dire pourquoi pour un même poste qui est banalisé avec une fiche de fonction, on va prendre une personne plus que l'autre. Je me suis amusé en termes d'achat à mesurer le parcours du combattant pour recruter un fournisseur, une entreprise ou une PME. C'est exactement les mêmes critères de décision quand une entreprise embauche via le DRH. Vous trouvez dans un désert, vous cherchez quelqu'un, ce quelqu'un vous dit il est comme ça. Ensuite, vous dites, tiens, ça peut intéresser moi en tant que personne pour être complémentaire ou dans mon activité. Et les critères d'attribution seront toujours sur quelque chose qui n'est pas mesurable, c'est subjectif. Hein, ça a été dit tout à l'heure, on est dans une société numérique. Moi, j'appelle ça la génération Zapet et tableau Excel. Et pourtant, il y a des gens qui arrivent. Et quand on voit le nombre de brevets en France et de créations d'entreprises, ce qu'on appelle les start-up, c'est en train d'élargir malgré la crise économique. Après, le problème, c'est une fois qu'on a créé tout seul, avec plusieurs fonctions, c'est comment j'arrive à me développer et que ça soit économiquement viable et durable. Et c'est là la grande difficulté aujourd'hui. Il y a plein d'initiatives, on ne peut pas laisser les gens au bord de la route. Ensuite, il faut créer du sens dans les territoires, entre les gens. Et il y a toujours quelqu'un qui parlera de quelqu'un.
Le tout est d'avoir des recettes. Et pour vous, madame, qui êtes malgache, puisqu'on s'est vu sur le stand start-up, l'espace start-up, eh bien c'est simple, il me semble. Chercher des recettes. Mais évidemment, sous le mot recettes financières, il y a les recettes, c'est-à-dire les conseils que l'on donne aux gens pour faire de la cuisine malgache, de la cosmétique malgache, et vous faites tout simplement chez vous des réunions de malgaches, des concours de cosmétiques malgaches connus des malgaches de votre entourage, et des soirées conviviales ou des journées conviviales où c'est un concours entre les cuisinières malgaches avec un prix à la fin qui est symbolique, mais qui vous permet, au-delà des recettes gastronomiques ou des recettes de beauté, de créer la convivialité entre les gens. Et donc, comme le disait Florent tout à l'heure, être seul, c'est bien, mais être nombreux, c'est mieux, parce que, comme on dit, si tu es seul, tu vas plus loin, mais tu vas plus vite, et si vous êtes plusieurs, vous allez plus loin. Vous aviez quelque chose à dire?
En fait, parce que par rapport à la question que vous avez posée, moi je ne peux pas y répondre comme ça, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de connaître aussi votre parcours, ce que vous faites, ce que vous voulez faire. Et je crois que ce qui est important, c'est que dans les rencontres que vous pouvez avoir aussi, et par rapport à vos projets, c'est après qu'on puisse aussi vous mettre en relation avec les bonnes personnes. Et le plus intéressant, c'est justement d'en discuter aussi avec les acteurs locaux. Parce qu'en fait, à travers les acteurs locaux que vous allez rencontrer, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des personnes qui vont dire, tiens, en fait, ce que tu veux faire, ce que vous voulez faire, il y a aussi quelqu'un qui est ici à Poitiers ou ailleurs, qui a ce type de projet ou qui a développé une entreprise dans ce domaine, qui peut-être peut créer des liens ou une association. Enfin, je pense que c'est par ces rencontres, en fait, que l'on peut s'enrichir et pouvoir porter son projet. Et il n'y a pas, en tout cas, de solution mécanique qui ferait que, par rapport à votre question, je pourrais vous dire, voilà, il y a cette solution-là, elle est efficace. Je pense que c'est vraiment dans le territoire que vous allez pouvoir les trouver.
Je vais prendre l'exemple pour venir à la foire de Poitiers. On est logé, donc, via Airbnb chez quelqu'un. Ce monsieur, dont je ne connaissais pas Dave et Dadan avant, il se trouve que par hasard, donc, avec André, donc, on a fait deux réseaux séparés, on se retrouve chez la même personne. Donc ça s'invente pas, ce que je vous dis. La personne, en fait, c'est un Africain, et en fait, donc, lié à des problèmes de santé de sa femme, donc il est venu donc d'Afrique en France pour qu'elle puisse être mieux soignée, d'accord, mais légèrement handicapée. Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il a fait? Donc il s'est retrouvé en France, donc au niveau de sa cellule familiale, hein. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui? En fait, il fait de la traduction d'anglais dans une langue centrafricaine. Donc il est satisfait ses besoins, mais au début, je pense que c'est un ancien, il travaille au CNRS, si j'ai bonne mémoire.
Oui, c'est un linguiste du CNRS quand même.
CNRS, donc ce que je veux dire, c'est qu'il a créé de quelque chose qui sont ses racines, une activité, et ensuite il la complète en recevant des gens chez lui qui l'ouvrent encore en d'autres domaines. Vous voyez? C'est-à-dire, on ne connaît pas la richesse, mais il y a toujours un vecteur qui fait qu'on a envie de faire quelque chose.
Et qui correspond à un besoin économique, parce que les traductions lui sont commandées par une association humanitaire, je dirais, des États-Unis, car pour les réfugiés qui viennent du Centrafrique, qui ne parlent que leur langue, qui est le Sango, et le Sango, il faut qu'un réfugié qui veut rentrer aux États-Unis doit connaître les lois des États-Unis. Et donc, il traduit, évidemment, des lois pour les réfugiés, voilà ce que vous devez faire, et nous vous aiderons si vous faites ce que vous devez faire. Mais si les gens ne savent pas, ils ne peuvent rien faire. Donc c'est vraiment quelque chose de très utile, quoi.
Madame, vous avez une signature malgache, c'est votre driver de votre vie. Regardez comment vous pouvez le rendre visible et derrière. Peut-être que vous pouvez imaginer un système de livraison à domicile des choses autour de Poitiers. Peut-être qu'il y a une association des gens de Malgache à Poitiers. C'est tout bête, la vie. C'est une suite de rencontres positives.
Oui, je vous remercie pour vos conseils qui sont très constructifs et instructifs. Et donc, dans ce cas-là, je dois avoir le statut d'auto-entrepreneur pour pouvoir exercer ces activités.
Aujourd'hui, soit vous travaillez ou vous ne travaillez pas, et ensuite, vous avez possibilité de travailler. Donc ensuite, c'est à vous de regarder. Vous pouvez vous rapprocher, je pense, de la CCI ou des choses comme ça qui peuvent vous aider localement, je veux dire. C'est-à-dire le meilleur statut. Mais la chose la plus simple, il faut mettre un pas à étrier. Effectivement, auto-entrepreneur, c'est le plus simple. Il y a moins de contraintes.
En fait, il y a deux réseaux aussi que vous pouvez consulter. Il y a l'ADI,
ADIE, qui accompagne les personnes qui veulent créer des micro-entreprises et qui peuvent les accompagner par le financement aussi, pour un réseau qui suit beaucoup les micro-entreprises. Et puis après, Pôle emploi accompagne à travers l'aide, l'ACRE, à la création d'entreprises, en fait. C'est ceux qui sont en... c'est une expression maintenant qu'on dit, mais c'est ceux, peu importe, qui veulent créer une entreprise, mais qui sont en recherche d'emploi. Et donc l'ACRE, elle permet de pouvoir, pendant 2 ans, avoir une aide dans l'accompagnement de la création de son entreprise. Enfin, c'est 2 exemples concrets.
Voilà, juste pour dire, pratiquer le partage lucide de ressources. Le terme de lucide est important. Il ne s'agit pas de partager à tout vent à des gens qui peuvent devenir des concurrents, des choses comme ça. Mais il faut toujours réfléchir avant d'agir. Donc ne pas gémir, agir à condition de réfléchir quand même avant l'action.
Il y a aussi la chambre des métiers et de l'art. Le vendredi matin, on effectue des informations très intéressantes sur, sur la salle, toutes les modalités pour entreprendre. En fait.
Autre question ?
Non, ce n'est pas une question, c'est juste un remerciement. Donc, vous aviez dit être là au bon moment, je crois que j'étais là au bon moment ce matin. J'ai vraiment trouvé extrêmement intéressant, enrichissant tout ce que vous avez dit. Je suis très intéressée pour continuer à travailler dans cette direction. Confirmée dans mon projet d'avoir un projet ancré dans un territoire que je connais bien depuis 20 ans et dont le maître mot est autour de la relation, créer du lien et qui me semble effectivement une priorité aujourd'hui. Donc je suis si maman de 4 enfants, donc je suis obligée de m'en aller. Et je vous remercie infiniment.
Merci beaucoup. Moi, je voulais juste poser une question aussi sur l'aspect culture. En plus, on va faire le lien un peu, si j'ose dire, avec la table ronde de cet après-midi, parce qu'on a déjà un intervenant qui est arrivé parmi nous, M. Poulain. Donc voilà, la question de cet après-midi, ce sera comment la philosophie peut aider aussi à éclairer ce type de questions. On parle effectivement de la difficulté de faire passer cette notion de lien avec la culture. Est-ce que ça n'a pas un lien? C'est peut-être une idée un peu... un lieu commun, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une crise des élites de ce point de vue-là par rapport à la culture? Alors je veux juste signaler le petit bouquin de M. Jean-Luc Génère, qui est responsable du théâtre, la compagnie du théâtre du Nord-Ouest à Paris, qui, je ne vais pas vous le lire, mais je vous invite à lire le dialogue succulent qui a eu lieu entre François Hollande, Manuel Valls et sa ministre de la Culture. Mais on aurait pu imaginer le même dialogue succulent, je vous rassure tout de suite, ce n'est pas un problème de gauche ou de droite, entre Sarkozy, sa ministre de la Culture, qui est vraiment illustratif de la crise des élites par rapport à la culture, parce que vraiment, je vous ferai montrer le passage. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose? Et juste pour faire le lien aussi avec l'entreprise Jean-Marc Neveu, qui ne pouvait pas être là ce matin, mais chez qui nous allons faire une sorte de Fab Lab éphémère culturel au mois de juillet, où une poétesse, une écrivaine, un philosophe, un musicien viendront, non pas pour faire de la culture comme une cerise sur le gâteau, mais comme une cerise dans le gâteau, comme déjà Florent a commencé à le faire, à déflorer le sujet, avec un photographe qui a travaillé avec les salariés. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre un spectacle aux yeux des salariés, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, juste... juste pour dire que, effectivement... Cet aspect culturel, au sens noble du terme, noble et concret du terme, est certainement un grand défi actuellement, où on voit la culture divertissement prendre envahir tout le paysage médiatique. C'est bien de se divertir, bien évidemment, et de rire au contraire. Le rire est le propre de l'homme, paraît-il, en plus. Mais la culture en profondeur, c'est sûr que ça doit être une quille pour le bateau que nous avons. Qu'est-ce que pense Florent Blain? On va terminer dans 5 minutes. Donc s'il y a d'autres questions, Jackie, il y aura une question à madame une fois que Florent aura parlé.
Oui, juste en 2 minutes. Alors c'est vrai que les circonstances lequel il illustre particulièrement, mais il y a un naufrage, parce que ceux qui voulaient être les champions de la culture, je pense au Parti socialiste, qui l'avait un petit peu mis sur un piédestal, l'ont plus ou moins abandonné lors de leur dernier quinquennat, et puis on a vu la campagne présidentielle se dérouler, et pourtant j'y ai été attentif, mais il n'a jamais été question de culture dans le débat public. Je n'ai jamais entendu de débat sur ces questions-là. Aucune des grandes antennes télévisées n'a abordé la question des cultures. Donc c'est devenu un vrai parent pauvre aujourd'hui. Il y a une rupture effectivement entre les élites et la question de la culture. Et puis il y a un deuxième écueil, c'est que donc la culture a échoué dans ses grandes missions telles qu'elles étaient énoncées par le ministère quand il a été créé, c'est-à-dire une démocratisation. Une démocratisation de la culture, qui, en fait, de démocratisation est devenue une massification de la culture, et elle s'est un petit peu effilochée, effectivement, sur ce dont André parlait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a énormément de divertissements, il y a énormément de propositions, il y a énormément de chiffres d'affaires, que ce soit l'industrie du jeu vidéo, du cinéma, de l'édition, mais finalement, la qualité, l'exigence de notre temps, elle n'est pas vraiment représentée. Il n'y a pas de lien en plus entre cette exigence-là et puis cette culture de masse. Et alors aujourd'hui, comment retisser ce lien? Alors ça passe par les médiateurs dont vous parliez tout à l'heure, tout ce travail de médiation et de terrain, quelle que soit l'initiative apportée de toute façon qui est à faire. Mais aujourd'hui, à part le constat de cette rupture, c'est vrai qu'il y a une impasse, il y a une nécessité de réinventer la culture et la politique culturelle en France, ça c'est certain.
Dernière question.
Oui, alors je vous remercie pour ce riche débat. Et donc je suis arrivée moi avec une idée sur le circuit court, voilà, fédérer les agriculteurs du territoire. Et je repars en me questionnant sur la légitimité de cette idée. Et là, en fait, merci quand vous me permettez de vraiment ancrer cette idée et de la proposer à l'élu, quoi. Après, je ne sais pas quelle porte ouvrir et avant tout à quelle porte frapper et comment créer cette synergie, en fait, pour pouvoir motiver tous les acteurs du territoire et tout d'abord l'élu, d'ailleurs, le maire.
En fait, quand on regarde circuit court, c'est quoi? C'est bien mettre en cohérence localement le producteur, le consommateur, et il est vraiment au niveau de dimension locale, donc géographique, ce que je veux dire. Donc ça veut dire avoir une connaissance des différents maillons, je veux dire, d'un côté. Quand on prend j'ai fait regarder, au niveau de l'agroalimentaire, ça en garde bien. Donc le producteur cadre 40% du produit. Et en fait, vous achetez le produit à quelqu'un qui va vous le distribuer. Donc lui, il ne va travailler que sur la marge. Donc, et entre les deux, c'est du service, en fait. Donc, tant qu'on ne saura pas exactement sur quoi on influe, on sera toujours perturbé parce que c'est où on achète. Je vais prendre un exemple, il y en a certains qui diront. Vous allez dans une grande surface, vous allez acheter un sac de 10 kg de pommes de terre. Vous vous retrouvez avec un choix avec 10 sortes. Alors il y en a qui vont dire, ouais, moi je suis bio, donc il prendra le moins cher des bio. Il y en a qui voudront des pommes de terre rouges, etc. Le truc. Mais maintenant, vous êtes à côté de l'agriculteur. Vous avez un sac de 10 kg de pommes de terre. Vous ne poserez pas la question du prix. Parce que vous saurez que vous êtes en contact avec la personne et derrière vous aurez un service. Et si vous avez un problème de qualité, vous irez voir. Et quand vous consommerez ces pommes de terre, vous verrez qu'elles ont une apparence pour vous plus nutritive, donc ça va améliorer la santé. Et le circuit court donc, doit être fait dans tous les cas pour bien montrer le lien qu'il y a entre d'un côté le service qui est amené par le produit ou le service que vous achetez par rapport à autre chose. Hein, c'est comme quand vous achetez une voiture, vous ne posez pas la question de la garantie. Puisque c'est normal, il y a tellement de chaînes derrière qui ont été faites, vous avez mis votre tête de truc, et quand votre voiture est en panne, essayez là où vous avez acheté votre voiture. Ils vont vous renvoyer sur le constructeur qui ne lui pourra pas faire jouer la garantie. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est directement le lien, c'est créer des ponts. En ce ce qu'on appelle le consommateur pour mettre en lien avec le producteur. On a un exemple qui est dit aussi sur l'affichage environnemental. Il y a quelques années, on voyait des lettres ABCDEF. Hein, on sait que aller vers du vert, c'est mieux que de rester en rouge. Donc c'est l'amélioration continue. Qu'est-ce qui s'est passé dans un premier temps? Ben, vous voyez des trucs, une machine à laver, il y avait du B, du C, du D. Donc si vous regardez dans une grande surface telle qu'elle soit, ou même sur Internet, vous avez l'impression de contribuer à un collectif. Si vous achetez quelque chose, c'est plus près du A. Et qu'est-ce qu'ont fait les fabricants qui maîtrisaient quand même pas mal du produit, donc, etc. Maintenant, on va y apparaître du A++. Donc je veux dire, les mouvements de fond devront essayer de faire du lien entre le producteur et le consommateur et que les gens agissent. Quand vous prenez TripAdvisor, au niveau de la notation des hôtels, qu'est-ce qui fait la fidélité des gens? Vous regardez sur Internet, je vais aller à Poitiers, tiens, je vais réserver un truc et machin, vous regardez les commentaires des gens. Hein? Et la personne qui est au milieu, qui fait le service quand même, qui vous propose un prix donné une chambre d'hôtel, lui, il se trouve un petit peu coincé. Et qu'est-ce qu'il va faire lui au milieu? Il va essayer d'améliorer la qualité de service pour une meilleure perception du consommateur. Donc je ne sais pas si ça répond, mais c'est un peu ça. Il faut faire du lien, connaître les circuits, regarder les intermédiaires et mettre les intermédiaires devant leur responsabilité. Plutôt que de faire du gaspillage qui va remplir des poubelles, et ensuite des poubelles peut-être au bout du jardin au niveau des collectivités locales, des déchetteries pour pouvoir faire du tri sélectif, pour pouvoir revendre des matériaux, ou l'autre côté au bout de son jardin, de faire ces déchets alimentaires du biogaz, et qu'un jour ce biogaz-là, on puisse le mettre dans sa voiture pour pouvoir circuler. Parce qu'on est producteur de notre propre énergie, on l'utilise mal. Donc si on pouvait localement utiliser toutes les ressources, enfin, comme ce que fait maintenant dans les bâtiments, ce qu'on appelle l'énergie positive, ben, c'est vrai dans le sens du mieux, encore faut-il savoir par rapport à l'usage, c'est qui a produit et quelle est la part du produit par rapport à ce que l'on achète.
Merci Alain. Vous avez quelque chose à dire sur ce sujet?
Par rapport à ce projet, en fait, c'est vrai qu'on peut attendre un rebond des élus en disant qu'il va y avoir effectivement le maire, la commune, concerné au moins pour les informer de l'intention. Mais après, moi je crois, en tout cas, parce que je suis encore élu, c'est que les élus n'ont pas toutes les solutions à eux seuls, en main de compte, et que quand on a un projet comme le vôtre, il est important, je crois aussi, de mobiliser les citoyens qui sont autour de vous, de la commune, pour leur présenter aussi votre idée, parce que peut-être que parmi les citoyens, et en dehors même des institutions locales, certains ont des terrains qui ne sont pas utilisés, parce qu'ils ont vieilli, leur terrain, et ils ont plus le temps de l'entretenir, et ils sont prêts peut-être à vous mettre à disposition un terrain pour pouvoir justement l'entretenir et l'utiliser dans le cadre de ce que vous voulez faire, soit pour du maraîchage, pour... Est-ce que c'est autrement? Tout à fait, non, mais j'ai bien compris, c'est pas vous qui allez faire directement, mais c'est pour relier les producteurs et les consommateurs. Mais il peut y avoir aussi.
C'est le lieu de vente, en fait.
D'accord, le lieu de vente. Parce qu'en fait, ce sont des lieux de production également. Moi, j'ai vu se développer des jardins partagés dans un territoire avec les habitants et avec aussi des producteurs qui sont transférés à savoir. En fait, ça peut être aussi toute la partie aussi du sujet. Et puis après, comme cela a été très bien dit, il y a la rencontre avec les acteurs du territoire pour voir ce que les uns et les autres peuvent mettre à disposition en termes de ressources, quels sont les besoins et comment les relier. Hein. Mais c'est vrai que si vous cherchez un local, alors là, oui, effectivement, il y aura peut-être nécessité de passer par le mairie.
Donc nous arrivons à la conclusion, et cette conclusion, nous sommes là, bien sûr, pour écouter, mais nous sommes là parce que nous sommes vivants, actifs. Et j'ai demandé à Laurent Guillaume de nous parler un peu de l'avenir à court terme, voire à moyen terme. Qu'est-ce que lui veut faire de par sa qualité d'homme politique et de dirigeant dans la société civile ensuite, et sur quoi pouvons-nous, chacun de nous, individuellement, l'aider véritablement, soit seul, soit avec ceux qui nous entourent. Je pense que c'est clair.
Bon, peut-être d'abord merci pour cette invitation, et puis c'est l'occasion de découvrir de nouveaux projets, de nouvelles perspectives. Moi j'apprends toujours, hein, les rencontres. Ça m'est arrivé, vous voyez, l'année soir, j'ai fait 7 heures de train pour 15 minutes d'intervention et 15 minutes d'échange. C'était court, hein. Mais après, c'est pas le temps qu'on passe à le transport qui est pas longtemps, c'est les rencontres que l'on peut faire aussi dans les territoires, parce qu'on apprend toujours des échanges, en fait, par rapport à ce que vous êtes en train de faire, parce que, par rapport à ce que vous portez. Et moi, ce en quoi je crois, c'est surtout que aujourd'hui, la société change très vite et qu'en fait, il y a une accélération économique très forte, mais il y a une décélération sociale aussi très forte. En fait, on a plein de technologies qui nous entourent, on a plein de possibilités, mais souvent marchandes, en fin de compte. Et que face à cela, on a la nécessité de recréer des liens. Voilà. Et des liens par les relations humaines, par les projets que l'on porte dans nos territoires, là où on est, dans la cité, là où on vit. Et je pense que cela passe forcément par le champ associatif, par le champ syndical, par la démocratie sociale, par les entreprises, par les start-up, même si dans start-up on peut entendre différentes choses, il y a du bon et du mauvais, parce que le mot en lui-même il a une signification. Mais je crois que ce qui est important, c'est vraiment ce que l'on peut porter demain. Moi j'ai décidé de porter ce projet des territoires zéro chômage longue durée. Avec Télécarmont et avec d'autres associations. Nous, ce que l'on fait, c'est faire émerger justement des projets dans les territoires. Donc, si vous, ici, à Poitiers ou dans des communes autour, vous êtes intéressé par ce sujet et que vous voulez continuer à y travailler, nous, on est à disposition, bien sûr, pour vous fournir tous les éléments nécessaires, toutes les informations utiles, parce que nous, on pense qu'on va réussir à avoir les 10 premières expérimentations et que l'on va ensuite étendre cela à de nombreux territoires en France. Mais ça prend du temps. C'est un temps, voilà. C'est pas un projet, ça peut pas être magique, en fait, où on affiche un territoire zéro chômage longue durée et on le décrète. En fait, ça veut dire passer du temps d'échange, de dialogue avec les personnes du territoire, s'interroger sur qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on pourrait créer, voilà, et se dire que ouais, on s'inscrit dans un temps long. Enfin, c'est pas la mode dans la société, c'est plutôt le temps court, hein, c'est l'immédiateté, c'est tout de suite, maintenant. Et je crois que c'est aussi l'intérêt de ce projet. C'est pour ça qu'on s'est inscrit dans un temps long. Ça peut paraître utopiste, mais pour nous, c'est moi qui suis franc-comtois, à la base, c'est en Franche-Comté, Charles Fourier, j'ai eu des utopies. Hein, mais elle peut devenir réaliste. Je pense qu'on peut faire des choses concrètes, faire ces belles idées. Voilà. Mais ça nécessite justement un temps long, un temps d'échange, de bienveillance aussi, de prendre en compte les différents acteurs autour de soi pour construire ce projet. Et c'est vrai qu'on a de plus en plus de territoires qui nous contactent. On fait avec les moyens du bord, hein, c'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas 50 000, mais il y a toujours un intérêt. Et parfois même, il y a des territoires qui ont commencé à travailler sur les territoires zéro chômage longue durée, mais qui ont abouti à d'autres projets. En fait, qui ont construit ensemble, ne serait-ce que par la rencontre des personnes. Moi, je me rappelle très bien une réunion à laquelle j'avais participé à Nozonville, dans les Ardennes, où en fait, dans la salle, il y avait des syndicats, des chambres consulaires, des élus locaux, des partenaires économiques, peu importe, plein de mondes différents, mais toutes ces personnes n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Tant le territoire, tant qu'ils connaissent bien, mais ils ne se mettent jamais autour d'une table ensemble pour réfléchir, parce que chacun est dans son monde, le monde économique, le monde des syndicats, le monde des élus, le monde de ceux qui ne croient plus en rien, parce que de toute façon, on entend plein de choses et il n'y a jamais rien qui se passe. Donc, toutes ces personnes-là, à un moment donné, elles sont capables de se réunir ensemble, de se mettre autour d'une table, de commencer à réfléchir, à produire des choses. Je suis sûr qu'il peut en mettre de belles idées pour votre territoire, ici à Poitiers, dans les communes, bien sûr, autour. Et il y a plein de richesses. Moi, je vous rappelle d'être allé à la Cité du Livre, on en parlait tout à l'heure, ici, dans votre département. Là où il y a plein de belles choses, des petits projets, des gros projets, des intentions, des volontés. Bon, qu'est-ce que ça viendra dans le futur, je ne sais pas. En tout cas, il y a une volonté. Donc il y a un chemin, donc après il faut pouvoir y aller ensemble, mais tout seul on n'arrive à rien. Tout seul isolé. Moi, si j'avais défendu tout seul cette idée dans mon coin, ou si Patrick Valentin avait défendu tout seul dans son coin, on n'y serait jamais arrivé. Il a fallu qu'à un moment donné, on se réunisse avec des grandes associations du camp de la pauvreté qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même philosophie, d'ailleurs, de la lutte contre la pauvreté, de comment on y arrive, comment on peut y parvenir, avec des acteurs institutionnels, avec des administrations centrales. Il a fallu aller convaincre pendant des heures et des heures, notamment l'expérimentation, ça va être un projet de l'État, donc vous inquiétez pas, au contraire, ça va plutôt aider le collectif avec des acteurs comme le MEDEF et comme la CGT. Je me suis retrouvé à Lyon avec pendant plein de débats sur la loi El Khomri, avec à ma gauche la CGT, à ma droite le MEDEF. Chacun était bien placé, et en fait, ils ont dit qu'ensemble, ils voulaient travailler sur ce projet. Et donc, il y a plein de choses qui sont possibles dans le territoire. Parce qu'en fait, on sort aussi peut-être des clivages idéologiques nationaux, c'est-à-dire en fait, parfois, il y a beaucoup de postures. Il y a des clivages, parce qu'en vrai, il en faut, des débats de fond. Après, il y a aussi beaucoup de postures, tout ça, il y a beaucoup de positionnements. Il va falloir aussi parfois en sortir sur des choses.
Merci. Et donc, ça s'appelle l'économie symbiotique aussi, hein, c'est en train d'émerger. Et en termes tout à fait concrets, je vous propose d'aller déjà sur les sites internet pour avoir un peu plus d'informations et voir si on peut adhérer, si, enfin, je veux dire, sur le plan tout à fait concret, il y a Fidarec, effectivement, qui développe aussi toute cette, donc, non seulement philosophie, mais action autour des réseaux à laquelle personnellement j'adhère. Il y a évidemment l'Espace Mendès France, le centre culturel, scientifique, technique et industriel de Poitiers, qui a une réputation certaine et qui agit, la preuve. Et n'oublions pas surtout de mettre tout ça, non pas saupoudrer de culture, mais nourrir de culture. Je laisse le mot de la fin à notre ami Jackie Denieux.
Merci. En vrai, mais avant le mot de la fin, comme il y a trois intervenants qui sont déjà présents, qui vont faire le lien, je vais juste leur demander de se présenter très rapidement, en quelques secondes, on y reviendra, ça permettra d'échanger.
Bonjour, mais je suis Jean-Pierre Bianchi. Et je suis le président d'une association fondée en 2006 qui s'appelle Philolab et dont la principale vocation est de susciter le raisonnement et la pratique de la philosophie, de faire sortir la philosophie de son bastion de terminale et de l'université et de la faire, de la remettre au service de la population, de retrouver un peu sa vocation antique. Voilà.
Merci pour cette présentation en ligne, ça permet d'échanger. Au moment du repas.
Bonjour, Hugues Bazin, je suis chercheur en sciences sociales et j'anime un laboratoire d'innovation sociale par la recherche action. Et donc on travaille beaucoup sur les questions de tiers espace, tiers paysage, c'est-à-dire que toute l'hypothèse, c'est justement les territoires délaissés où on s'imagine, enfin, où il y a la créativité, s'imagine la société de demain.
Un peu le contraire des thèses de Florida, finalement.
Très bien.
C'est pour l'un.
Moi, je suis l'un des fondateurs d'une association, avec d'autres, d'une association qui essaye de mettre la philo à la disposition d'adultes qui sont en activité et qui n'ont rien à voir de par leur métier avec le monde de la philosophie, mais qui ont l'intuition du côté de la philosophie, ça pourrait les aider à mieux comprendre ce qui se passe dans leurs diverses professions.
Quelle ville ?
À Clermont-Ferrand.
Voilà, c'était une façon d'introduire l'apéritif en guise de repas et de l'apéritif pour la table ronde de cet après-midi qui débute ici à 14h30.
D'accord.
Donc, en tout cas, merci à vous. Et puis, le start-up.
Oui, on va passer rapidement sur l'espace start-up, car il y a un magicien et un hypnothérapeute là-bas. Alors, on va vous hypnotiser et d'un coup de baguette magique, vous transformer en Macron ou en quelque chose de similaire, si vous le souhaitez. À trouver des copains. Bon, merci à tous ceux qui sont venus, merci à Jackie d'avoir organisé ça, merci à Florent de sa participation et ne pas venir agir, c'est évidemment le live positif pour tout le monde. Merci et rendez-vous sur l'espace Startup rapidement pour ceux que ça intéresse et ensuite cet après-midi pour la table ronde à 2h30.